Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être avec vous en ce lundi 8 juillet. L'actu est toujours aussi dense hein, entre l'Euro, les Jeux Olympiques. Eh ben, on va encore vous débriefer tout ça avec nos invités, ceux qui étaient là il y a 15 jours, parce que la semaine dernière, on avait exceptionnellement un peu avancé l'émission qui faisait office d'avant-match de France-Belgique. Ce soir, on a retrouvé donc notre horaire classique et traditionnel. Je salue donc Loan, notre regard de l'arbitrage. Bonsoir Loan, ça va ?
Bonsoir Philippe, ça va.
Pleine forme, t'as vu des bons matchs ?
Ça s'améliore.
Ouais,
ça s'améliore.
On arrive dans la toute dernière ligne droite. Hein.
C'est ça, ça se rapproche là pour voir celui qui va gagner.
Ouais. Notre ami Julien est avec nous, agent de joueur. Salut Julien, ça va ?
Bonsoir Philippe, ouais. Très bien toi ?
Bon, depuis 15 jours, tout va bien, tu te régales sur cette euro, oui et non ?
C'est un bien grand mot, se régaler, ouais. Mais bon, il voilà. y a des bonnes choses quand même.
Très bien. Et puis on devra attendre notre ami Alexandre qui va arriver d'un moment à l'autre. Hein. Il nous fera un petit journal des sports. Puis je salue Vanessa aussi.
Bonjour Philippe, bonjour ouais. À tous.
C'est dommage, on n'est pas à la télé. Elle a une belle veste rouge, Vanessa.
Et en bleu.
Voilà, c'est ça. Un bleu blanc rouge, non ?
Déjà c'est en ça. Avant-goût voilà. Des Jeux Olympiques.
Voilà. Alors, effectivement, donc, on aura une page olympique dans la dernière partie de cette émission avec Vanessa. Mais on aura aussi une interview de supporters que tu as eu l'occasion de rencontrer comme ça, dans un pub parisien.
Lors du match France Pologne, et oui. C'était très intéressant. C'était un match que j'ai vraiment vécu et du coup, ça m'a mis le feu. J'ai vraiment vécu ce match et j'ai vraiment vécu cette ambiance populaire du foot et c'était super.
D'accord, on écoutera donc cette interview tout à l'heure. Alors, pour lancer les débats, messieurs, 7 euros, comment vous le vivez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On est, j'allais dire, dans la toute dernière ligne droite. Loan, tu prends ton pied, non ? Devant les matchs ? Avec l'équipe de France, non, hein, quand même.
Avec l'équipe de France, on pourrait avoir mieux. Ouais. Là, je regardais tout à l'heure une interview de Didier Deschamps qui disait qu'il y avait beaucoup moins de buts que lors du précédent Euro.
Alors, justement, ça tombe très bien, parce qu'en préparant l'émission ce matin, j'ai regardé, il y a beaucoup moins de buts, effectivement, par rapport au précédent Euro. Il y a actuellement, donc, 103 buts. On est à 5 buts des 108 buts de 2016. Alors que en 2020-2021, il y avait effectivement 142 buts, ce qui faisait une moyenne de 2,79. Alors que en 2016, on était à 2,12 et là, on est en train effectivement d'être probablement dans les mêmes créneaux. Hein.
Donc on voit que les défenses prennent le pas ouais. Sur les attaques.
Mmh. Bon, bah, on va avoir l'occasion de revenir sur tous ces matchs. Julien, c'est aussi ton impression, ton sentiment ?
Oui, oui. Après, ce sentiment, il est accentué par le fait qu'il n'y a pas finalement d'équipe qui a un très beau jeu, qui développe un très beau jeu, mis à part l'Espagne. Oui. Et on a des très beaux buts, mais effectivement, ça manque un peu d'envie d'aller de l'avant et surtout d'aller ouais. Chercher la victoire. On joue pour ne pas perdre ouais. Plutôt que pour gagner.
Pourquoi ? Parce que les équipes sont rincées ? Ou alors c'est la philosophie du foot actuel, on préfère avoir des bonnes fondations, avoir des bonnes défenses ?
Il y a plusieurs choses. Je pense ouais. Que, comme on l'avait dit précédemment, les grosses équipes ne sont pas arrivées en confiance sur cet euro, d'une part. Et il y a également le fait qu'ils ont dû observer, la plupart des équipes, que ceux qui gagnaient finalement les dernières compétitions n'avaient pas forcément bien joué, mais étaient costauds défensivement. Mmh, mmh, C'était à l'image du Portugal en 2016, oui, oui, à l'image de la France oui. Plusieurs fois.
L'Italie un peu moins quand même, l'Italie il y a 3 ans.
L'Italie ouais, un peu moins, mais l'Italie ouais. C'était une équipe plutôt surprise à ce moment-là, qui sortait d'une non-qualification en Coupe du Monde et que personne n'attendait en fait à ce niveau-là. Donc c'était une petite surprise, mais en réalité, si on regarde les demi-finalistes et finalistes des dernières grandes compétitions, il y a souvent un jeu qui n'est pas non plus flamboyant, mais ouais. De l'efficacité offensive.
Ouais. Bah ouais. Bah, l'histoire du foot, elle en est remplie comme ça, hein. D'équipes qui n'étaient peut-être pas celles qui avaient produit le plus beau spectacle et qui, à l'arrivée, est l'équipe qui gagne. Quoi.
Bah, c'est vrai que cette année particulièrement, ouais. On a du mal, en tout cas en tant que Français pour ma part, à s'enthousiasmer
vrai.
Et à vraiment rentrer dans, dans cette compétition. On est content du résultat parce que malgré tout, quand on a marqué contre la Belgique à la fin, j'étais content. Quand on a gagné au tir au but, il y avait quand même une petite tension, quelque chose. Mais il manque un petit facteur plus, quelque chose qui nous donne le sourire vraiment, qui nous donne une énergie différente.
Bon, c'est pas la situation politique aussi qui a fait ça, non ? C'est pas un petit peu occulté par ça ?
Ça joue certainement un peu, mais je pense que globalement, non, c'est pas ça. On se souvient quand même, à la Coupe du Monde, on avait eu, on se souvient de la frappe de Pavard, du match contre l'Argentine, qui était un super match. L'Uruguay, c'était plus serré, mais mine de rien, il y avait des occasions, il s'est passé des choses. La Belgique, le but, il y a eu des occasions, il y a eu des choses qui se sont passées. Donc là, c'est vrai que c'est assez calme, c'est assez lisse et on a du mal à vraiment profiter de la chose.
Je vais saluer Alexandre qui vient d'arriver. Bonsoir Alexandre, ça va ?
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors justement, je posais la question en préambule. Il te plaît cet euro ? Tu prends ton pied toi aussi ?
Non, pas tellement. Ce que je disais dans l'émission au bout du foot avec Malik, c'est qu'on s'ennuie fortement. Et en tant que supporter de l'équipe de France, on est en droit de demander autre chose, quand même, je pense. Ouais.
On parlait des buts, justement. Alors, et toi, il y a 103 buts. Il y en a eu 108 en 2016, alors qu'il y en a eu 142, quand même, pour l'édition 2020-2021. Donc, c'est dire. Hein. Voilà. Ben justement, tiens, on va le faire maintenant. On va écouter l'interview qu'a donc ramené Vanessa, voir comment, un peu, quand on est supporter français, on a eu l'occasion d'en interviewer un quand on est rentré de Düsseldorf, mais une interview beaucoup plus longue, beaucoup plus profonde, voir comment, quand on est supporter français, on vit ce match. C'était donc après le France-Pologne. Il y a les noms des deux supporters.
Oui, Pascal et Stéphane.
D'accord. Et on les écoute, c'était dans un pub du 13e, c'est ça ?
Avenue de France, oui, tout à fait.
Tu connais le nom du pub, non ?
Oui, c'est le Frog.
D'accord, voilà.
Il y a beaucoup de retransmissions sportives.
C'est bien, allez, on les écoute.
Un peu déçu, bien évidemment, puisqu'un match nul, ça veut dire deuxième. Et deuxième, c'est pas forcément une très bonne place dans un groupe à l'Euro, parce qu'on sait que les premiers des groupes, c'est souvent des costauds. Donc si c'est pour se récupérer l'Allemagne, l'Espagne, au prochain tour, ça peut être compliqué.
Bah
déjà, je l'ai vécu très bien puisque je le vis dans un endroit que j'apprécie particulièrement puisque moi je suis habitant du quartier. Donc c'est un endroit que j'aime beaucoup pour voir le match de foot, c'est très agréable. Et je le vis encore mieux parce que je suis avec mon ami Stéphane qui habite Los Angeles et qui est venu à Paris pour les affaires personnelles. Et ça me fait toujours plaisir de partager les matchs avec lui. Ici, on a vécu la finale de la Coupe du Monde. Exactement au même endroit. Exactement au même siège. Donc voilà quoi.
Je vais vous écouter, Daniel. Alors, ce match, Stéphane,
pardon. Mais Daniel, c'est pas mal aussi, hein, comme nom. Non, c'est pas mal. Oui. Bonjour.
Bonjour, Stéphane. Votre réaction, alors,
justement. Pareil comme un camarade, là. C'est un peu décevant, quand même, hein, parce que c'est toujours pareil. On est au troisième match. On n'a pas vraiment marqué de but. On n'a pas marqué de but, à part un grand goal dans l'autre. On avait l'impression que le match passait bien dans l'attaque, mais il n'y a pas de finition, il y a des occasions manquées, c'est toujours ce dernier tir, cette dernière passe qui cafouille. La pénalité nous a remis, une vérité, c'était bien, Dembélé a fait ce qu'il voulait, et après, une petite erreur, et voilà quoi. Et puis on rentre encore des occasions, et voilà, on va être contre un premier de groupe. Bon, en même temps, c'est pas la fin du monde, hein. Si on bat le premier du groupe, de toute façon, si on veut gagner ce tournoi, il faut battre les meilleurs. Donc qu'on les prenne en huitième ou en quart, voilà, c'est comme ça. Donc.
Et vous habitez
Los Angeles ? Los Angeles, souvent à Paris, la famille.
Vous pouvez dire un peu, vous êtes ici à Paris, pourquoi vous habitez Los Angeles ? Peut-être un petit peu, quelques mots, hein, sur.
Parce que je très longtemps, je travaille dans le cinéma et la pub, je produis là-bas, donc c'est un peu ma base, j'ai toujours été là-bas. Je suis ici à cause de famille française.
D'accord.
Donc voilà.
Vous êtes français, donc...
Je suis français expatrié. Hein ?
Vous êtes né où ?
Mais en fait, je suis né en Amérique et c'est pour ça que je suis américain aussi.
D'accord.
À 5 ans, je suis parti. J'ai double nationalité, je vis dans les deux. Dans les
et justement, 17 euros pour ici à Paris, qu'est-ce que ça vous procure comme sensation ?
Pour moi, c'est la meilleure chose du monde. Que je sois dans le même créneau horaire pour voir un euro. C'est mes vacances. D'être là pendant l'euro en France, voir cet euro, c'est des vacances pour moi.
Alors Stéphane, là c'est l'euro, dans quelques jours, un peu moins de 30 jours, il y a les Jeux Olympiques à Paris, et dans 4 ans, il y a les Jeux Olympiques à Los Angeles. Vous aimez le foot, est-ce qu'il y a d'autres sports que vous aimez, Stéphane ?
Les JO, j'aime bien pour la Réunion, mais je regarde un peu tout à la télé. mais c'est pas, il y a pas beaucoup de sports que je suis juste en géo, quoi. Je veux dire, je regarde le rugby, j'aime le tennis, voilà quoi. Enfin, donc je regardais ça, mais je serais pas à Paris pour les géos.
C'est tout.
Foot, rugby, tennis, boxe
et
le Tour de France.
Et des États-Unis, vous pouvez suivre tous ces grands événements.
Depuis 10-15 ans, beaucoup plus facilement. Oui, j'arrive plus facilement. Avant, c'était un peu plus compliqué. Avec des antennes qu'on tenait, voilà, non, enfin bon, voilà. Non, on y arrive plus, oui. Tout est devenu très mondial maintenant. Et puis en Amérique, il y a beaucoup de fans de foot.
Hein. Et les Tours de France.
Le Tour de France aussi.
Le Tour de France est un événement qui est vraiment très populaire en Amérique.
Est-ce que vous pouvez nous représenter et nous dire un peu, vous êtes habitant de ce quartier
Alors, donc moi je m'appelle Pascal, je suis habitant d'ici, j'habite dans le Chinatown, 13e. Je suis né dans le 12e et à l'âge de 3 mois je suis arrivé dans le 13. Donc j'ai appris à nager à la Butte aux Cailles, j'ai habité à la Butte aux Cailles, j'ai fait mes études à Vendrosanne, après j'étais à Claude Monet. Et je suis parti un peu barauder après dans le monde, parce que j'ai un peu le même métier que Stéphane. Je travaille dans le cinéma, je suis technicien. Et puis quand je suis revenu, j'étais dans Chinatown. Voilà. Donc c'est vraiment mon quartier. Parce que c'est un quartier qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup bougé, qui a beaucoup changé. Ma sœur était prof à Thomas Mann, juste à côté, là, le collège. C'est un endroit qui s'est un peu gentrifié, faut le reconnaître. Et ça, la gentrification dans quels que soient les quartiers, c'est jamais vraiment très très bien. Mais c'est une gentrification beaucoup moins violente, on va dire, que dans l'Est parisien, où là, ça s'est vraiment énormément gentrifié. Mais il y a toujours quand même... C'est un endroit, le 13e, où il y a le Stade Charletti, il y a la Halle Carpentier, où il y a eu pendant très longtemps il y avait le Paris Basket qui était là. Maintenant ils sont partis dans une très belle salle, dans le nord de Paris. Mais c'est quand même toujours un quartier où le sport a eu une importance plutôt intéressante. Et puis ce qui est génial, c'est que on peut très bien être là, on peut citer, on a le droit de dire des noms, des marques. Là on est au Frog, rue Avenue de France, mais il y a d'autres pubs à la Butte aux Cailles justement, où moi il y a un pub que j'adore qui, du côté de la rue Nationale, qui est plutôt sympathique. Enfin, il y a toujours des très bonnes ambiances.
Prochain match.
Et surtout, ce qui est génial, c'est que ce genre d'endroit, moi ce que j'adore, c'est que ça vous permet de, par exemple, le monsieur qui est à côté de nous là, on ne le connaît pas et tout, et puis en 5 minutes, on commence à... Voilà. Et je pense que, je ne dis pas qu'au stade, ce n'est pas la même chose, mais dans les bars, dans les lieux conviviaux, c'est dans ce genre d'endroit qu'on peut faire des rencontres super intéressantes, quoi. Après, pour en revenir sur le match, on est deuxième, comme le dit Stéphane, il n'y a pas mort d'homme. Moi, je suis très déçu simplement de la nouvelle politique de M. Deschamps, même si je trouve que c'est un entraîneur formidable. Mais là, à un moment, on est dans une phase où il y a un gros pivot qui s'oriente. Lloris, Giroud sont partis à Los Angeles chez Stéphane. Il y a des jeunes qui arrivent qu'il faut vraiment mettre en place. Il y a encore des cadres qu'il faut garder. Mais je pense qu'il faut changer cette politique de attentisme. Ce qui est terrible quand, à la vision de ce match, c'est qu'on s'aperçoit que plein de jeunes joueurs, je parle de Dembélé, je parle de Thuram même, ont pas cette espèce de notion de l'engagement qu'ont pu avoir des Griezmann, qu'ont pu avoir des Giroud, qu'ont pu avoir même des Kanté qui est revenu et qui a fait des matchs incroyables. Donc il y a un moment, les gars, faut s'arrêter. On va pas siffler à chaque fois qu'il y a une faute sur vous. Quand vous ratez un tir, faut vous replacer. Il faut pas pleurer en levant les bras en disant merde, j'ai raté. Faut y aller, les gars. Enfin voilà, le football, c'est un peu, c'est un sport d'engagement, quoi.
Et vous m'avez dit tout à l'heure, vous m'avez confié en off que le sport, le foot, était une affaire de famille. Vous m'avez dit que votre fils.
Oui, j'ai un fils qui écrit dans un journal sportif assez connu qui s'appelle SoFoot. Voilà. Il est plus axé sur les côtés décalés du foot. D'ailleurs qu'il écrit pas que dans SoFoot, il écrit aussi dans Jeune Afrique, il écrit dans ce genre de journaux. Et à chaque fois, c'est pas le foot sur le mercato, combien a été acheté, machin et tout. C'est plus sur des anecdotes plutôt sympathiques sur le foot. Il a par exemple fait un article il y a quelques années sur la Coupe du Monde des peuples qui n'avaient pas de pays. La Palestine, les Kurdes, tous ces gens-là. Donc c'est toujours à la fin un petit peu décalé.
Et justement, en fait, le foot, c'est une affaire de famille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu?
Et mon fils vit au Mexique. Voilà. Donc le foot aussi, c'est beaucoup, très important et là-bas.
Mais comment, à l'origine, elle est née cette passion?
Alors c'est mon père. Moi, c'est mon père.
Okay.
C'est mon père. Mon père, il... mes parents avaient une petite maison de campagne dans Lyon. Et mes premiers matchs que j'ai vus, c'est à la JOCR. J'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et mon père, on habitait à 40 minutes du stade. Et c'est là que j'ai vu. Là, j'ai vu Martini, j'ai vu Cantona, j'ai vu Djibril Cissé, j'ai vu tous ces mecs-là. Et ça m'a vraiment... Et j'ai adoré parce que c'est toujours un club, même si maintenant il a un peu évolué. C'est un club familial, c'est un club campagnard, c'est un club... Les ultras d'Auxerre, c'est des mecs à qui vous avez envie de payer des coups à la mi-temps, tellement ils sont gentils. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, mes fils, quand ils avaient 5, 6, 7 ans, ils disaient, on veut aller chez les ultras, ils allaient chez les ultras, il n'y a pas de problème. Parce que mes fils, en effet, ont connu aussi la JOCR. Et j'ai été très déçu et j'étais malheureux quand la JOCR a eu cette longue période en D2. Là, depuis qu'ils savaient, ils sont remontés. Et c'est... voilà. Non, je suis parisien, moi. Je suis né à Paris, 4 générations et tout, mais...
Ce lien avec Auxerre, c'est...
Parce qu'il y avait cette maison de campagne. Dites pas Auxerre, vous allez vous... Si vous voulez vous faire tuer par les Auxerrois, ne dites pas Auxerre. Auxerre, Auxerre, oh là là. Moi, je vous donne un conseil, hein. C'est un jour, vous allez faire une... Et puis après, j'ai habité en Espagne pendant quelques années.
Mon pays de foot aussi.
Et j'étais donc très fervent supporter de l'Atlético de Madrid.
Comment s'est passée la transmission là, de cette passion du foot justement entre vous et votre fils?
Ah bah moi mes fils, vous savez moi j'ai beaucoup voyagé, je les ai pas vus tout le temps,
d'accord,
de par mon travail. Mais voilà, il y a toujours eu le foot, il y a toujours eu le sport et puis le foot s'est imposé comme étant. Voilà, il y a mon fils Clément qui vit au Mexique. Lui c'est un dingue du Paris Saint-Germain. Moi je suis pas un grand fan du Paris Saint-Germain, donc c'est des sujets de conversation parfois animés, mais qui sont intéressants. Moi je suis plutôt Atlético, lui il est plutôt Paris Saint-Germain. Mais ça a toujours fait partie, parce que je pense que le foot, c'est un truc qui, voilà, c'est ça.
Ça réunit le foot, c'est dur. On peut aller n'importe quel pays. Moi j'ai des amis en Amérique, à Los Angeles, des Américains, que je vois tous les 2 ans pour le mondial ou l'euro, dans des bars. Et on se connaît, on s'allume, on se voit pas. Je n'ai pas leur numéro, mais pendant 4 semaines, on se voit presque tous les jours dans les bars pour voir les matchs et on est amis.
Et vos amis américains, justement, comment ils le vivent? C'est un peu dans le coin. Quel est peut-être le point de différence entre vous, français et eux, américains?
Oui, eux, je pense, ils sont souvent fans de clubs professionnels, que ce soit la Première Ligue ou enfin. Le club anglais ou c'est des clubs espagnols, c'est des fans de leur sou. Beaucoup, c'est vrai que beaucoup de gens en Amérique ont joué quand ils sont au lycée. Parce que quand on joue le foot américain, on se fait taper dedans, on a beaucoup de blessures. Beaucoup de jeunes depuis 40 ans ont joué foot. Ils sont pas assez
soccer.
Bons, mais soccer, mais enfin le foot, oui, le soccer, oui. Qui en fait, qui vient d'Angleterre, le soccer. Hein. C'est diminutif de social. C'était le fin 19e, c'était le nom que le rugbyman donnait au football. Enfin bon, bref, c'est pour ça. Ces Américains, ils ont vraiment une passion pour le sport, pour le foot. Alors après, quand les gens ont une passion, il y a toujours le clic. Hein. Ah, les gens qui sont, parce qu'on est en minorité. Donc, voilà. Mais c'est fascinant. Mais partout où on va, on peut parler de ça. On peut parler du foot avec n'importe qui. Ils sont fans. Après, il y a les fans et les non-fans.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai que dans ton état en Californie, il y a aussi une très grosse population, une très forte population hispanique, latino.
Oui, oui.
Et c'est vrai que le football mexicain est vachement regardé. Là, en ce moment, il y a la Copa América qui est là. Voilà, donc, c'est drôle d'ailleurs que les deux événements se passent en même temps. Pour les vrais fans, c'est un peu dur parce que la Copa commence à minuit, 1h du matin, 2h du matin, donc c'est un peu compliqué. Mais oui, c'est vrai que c'est un... Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est que, contrairement à ce qu'on veut bien dire, c'est que au niveau de la MLS, c'est quand même pas mal relevé, même si on va dire que les meilleurs clubs de MLS, c'est à peu près le milieu de tableau de la Ligue 1. Et ça, c'est les meilleurs clubs. Mais il y a plein de stars européennes en fin de carrière qui préfèrent aller en MLS plutôt que de partir en Arabie Saoudite, en Inde, en Chine. Bon, la Chine, c'était très à la mode. Après, il y a eu l'Inde. Voilà, regardez, Messi, il est à Miami. Lloris, il est à Los Angeles. Giroud part à Los Angeles. Après le... Et puis, il y a plein de joueurs italiens, ukrainiens. Il y a plein de... Très bizarrement, qui ne sont pas du tout moins connus en Europe maintenant, qui partent là-bas parce que je pense qu'il y a des conditions de vie qui sont aussi plutôt agréables. Et puis, ça s'adresse à une vraie population de fans, de vrais fans. De fans. C'est-à-dire que... Voilà, exactement. C'est pas des... C'est pas un truc comme en Arabie Saoudite ou en Chine. Enfin, j'y crois moins, quoi. Même si tous les gros clubs européens ont des antennes en Chine pour du recrutement, pour des choses comme ça. Il y a plein. Par exemple, en Liga espagnole, il y a beaucoup de joueurs chinois et des très bons joueurs. Mais c'est ça, c'est pour un peu le côté business professionnel du sport. Mais pour en revenir à ce qui nous intéressait plutôt, de l'espèce de fédération que peut avoir le sport. Ce sport, c'est que c'est quand même un sport où vous trouvez 9 potes au jardin d'enfants, vous pouvez faire un match. Il n'y a pas de ballon, bah, c'est pas grave, on prend une boule de papier et puis on met du scotch autour et on fait un match. Donc il y a ce côté. Après, on peut avoir plein de positions sur les fans, le hooliganisme, les imbéciles qui parfois pourrissent quelques trucs. Mais il n'y a pas d'autre sport qui rassemble autant les gens. Il n'y a aucun sport qui amène ça. Et puis, il y a aussi un autre truc, c'est que nous qui sommes, enfin, moi qui suis dans le milieu, on va dire, comme Stéphane, de l'entertainment, du spectacle, le match de foot, c'est du théâtre en direct. On ne connaît pas la fin, on ne sait pas ce qui va se passer. Certains actes s'écrivent dans la douleur, d'autres dans la trahison. Il peut y avoir une mauvaise interprétation de l'arbitre, peut être considérée comme une trahison par une partie des spectateurs. Il y a un côté tragédique et...
Au fond, on vit des moments forts comme au cinéma.
Bien sûr, même plus fort, je pense. Je pense même plus fort qu'au cinéma, parce que au cinéma, on sait pourquoi on y va, on va voir un film, on va voir un auteur, on va voir une histoire, on va voir des acteurs. Là, on va voir des émotions. Là, le 1-1, par exemple, hier soir, l'élimination de la Croatie à la dernière seconde par l'Italie qui a joué comme des buses, c'est une injustice de tragédie grecque.
Et ça revient aussi à l'ADN du foot, où on revient, on dit toujours que c'est moins depuis 10-15 ans, mais nous, dans notre jeunesse, l'Allemagne jouait comme l'Allemagne, l'Italie jouait comme l'Italie, la France jouait comme... Bon, maintenant, c'est tous plus mondial, mais c'est qu'en Italie, on a toujours eu beaucoup de chance partout. Et encore hier soir, ils ont montré leur chance. Comme les Allemands sont défensifs, c'est ça qui nous a passé dans le foot. Hein. Il y a un côté de nationalisme, pas politique, mais de gens jouent, de patrie, les gens jouent comme leurs Allemands sur leur mission. Et c'est ça qui est fantastique aussi.
Bon, j'espère qu'on ne vous a pas pourri la carte.
Voilà donc pour cette interview. Effectivement, ils avaient beaucoup de choses à dire, nos amis supporters.
Et merci à Pascal et Stéphane, voilà. Que je salue.
Voilà,
merci.
C'est très bien. Allez, donc France-Belgique, 1-0 la semaine dernière, 0-0 donc pour la France contre le Portugal, victoire 5-3. L'équipe de France ne joue pas bien, mais elle est donc en demi-finale. Ce sera demain soir sur notre antenne, notamment face à l'Espagne.
Elle est au rendez-vous,
oui.
Malgré tout.
Demi-finale, avait dit le président. Au moins, c'est au moins l'objectif.
Le contrat est donc rempli. Ouais. Certes, c'est pas esthétique, c'est pas très beau à voir, mais ils sont là et encore une fois, je dirais, ils sont bien présents.
Oui. C'est la culture de la gagne de Deschamps.
Oui, je pense. Mais comme il disait, contrat rempli, donc peut-être que Deschamps est prolongé automatiquement, encore une fois. Je ne sais pas, mais... Non, en dehors de ça, oui, je pense que Deschamps a la gagne en lui. Et peu importe le moyen, c'est la finalité qui compte. Et on le voit sur les deux matchs qu'on a vus sur les deux dernières semaines. Il n'y a pas un jeu offensif flamboyant et on est costaud derrière. Et puis on attend l'opportunité.
Oui, Alexandre, on en parle à chaque fois, qu'est-ce qu'on s'embête. Mais enfin bon, On pas... gagne, après, on passe. Donc,
Honnêtement, le match du Portugal était quand même un peu plus plaisant que celui de la Belgique, parce que celui de la Belgique, c'était quand même très...
Oui, parce que le Portugal, ils ont le même défaut. Ils ont des bonnes individualités, mais ils ont aussi des problèmes.
Ils sont tombés quand même sur une excellente défense. Ils sont tombés sur une excellente défense de l'équipe de France, quand même, faut le souligner. Mac Maignan, tu parlais des gardiens, Philippe, qui sont très bons. Mac Maignan fait un excellent euro. Mais bon, voilà, l'Espagne, ça va être une toute autre chose. Et même comme je l'ai dit plusieurs fois à cette antenne, je suis pas du tout friand du jeu de Deschamps, mais je pense que la seule équipe qui pourrait battre l'Espagne, c'est la France. La France est vraiment l'équipe.
Il manquera trois joueurs pour l'Espagne. Hein.
Ah oui, pour l'Espagne, oui, la défense. Donc
Pedri, qui est Nacho, déjà Pedri, qui a été blessé,
Le Normand.
Et le Normand aussi,
et
voilà,
puis,
c'est ça.
Il y a eu un carton de
Carvajal.
Oui, de Carvajal, voilà, c'est lui.
Qui s'est sacrifié pour la patrie.
Tiens, à notre ami arbitre, là, Kroos, il aurait dû prendre un carton, ça c'est sûr. Il y avait pénalty aussi
Alors, il y avait pénalty, hein, d'après les.
Toi, tu le siffles.
Oui. Moi, je pense que je l'aurais sifflé. Parce qu'en plus, j'ai vu le ralenti. Hein. Attention, ça va très vite. Je fustige pas l'arbitre. Mais ici, il a clairement agrandi sa surface corporelle.
Ça, c'est la règle, hein, de l'arbitrage. Et il n'y a même pas eu la VAR. Il n'y a même pas eu.
Ils ont dû. Alors, ça s'est pas forcément vu à l'antenne, mais ils ont dû quand même communiquer. Ils ont dû quand même communiquer.
Oui, mais il y a quand même 5 écrans dans le camion. Il y a des écrans un peu partout, quand même. On le voit dans tous les sens, quand même, l'action.
Bah, eux ont dû estimer qu'il ne fallait pas envoyer l'arbitre visionner lui-même. Voilà. D'accord. Ils ont dû checker ça rapidement, lui donner l'information à l'oreillette, et c'est passé.
Et les tirages de maillot, par contre, ça, c'est bon, c'est fréquent dans le foot. Hein.
Ouais,
ça nécessite pas les pénalties.
C'est de l'ordre des micro-fautes.
Je crois qu'ils avaient parlé justement d'être un peu plus regardants sur les tirages de maillot.
Sur Ronaldo,
pour l'Euro, finalement.
Notamment, et puis d'autres. Hein.
Pas plus que ça.
C'est surtout sur les fautes qui se passent au milieu de terrain qui vont couper des actions prometteuses. Voilà. Ouais. Et du coup, il y a systématiquement, quasiment un avertissement. Et la direction de l'arbitrage de l'UEFA, voulait que ça soit un peu plus sévère sur ces fautes-là.
Oui. Après, si je ne me trompe pas, sur la main, si l'arbitre avait sifflé main, la VAR ne l'aurait pas contredit et il y aurait eu pénalty.
Exactement.
Donc là, ils ont estimé simplement que ce n'était pas une erreur flagrante de l'arbitre et que donc on ne revenait pas dessus. Quoi.
C'est ça, ils ont estimé que ce n'était pas une erreur manifeste.
Ouais, ça, c'était le match contre l'Allemagne et puis l'Espagne, le quart de finale, on en reparlera. On va commencer par les huitièmes. Hein. On va rappeler les résultats de cette deuxième partie de compétition, les matchs élimination directe après le bilan la semaine dernière qu'on avait fait sur les phases de poule. Donc la Suisse qui a battu l'Italie 2-0, bon, c'était une victoire logique. Hein. On va rappeler, grosse déception pour l'Italie quand même, qui s'était qualifié ric-rac après son nul contre la Croatie. Cette équipe qui, à l'exception de son titre en 2020, n'arrive plus quand même à être présente maintenant dans les grandes compétitions.
Oui, non, mais de toute façon, l'Italie, ça fait quelques années, hein, comme tu viens de le dire, que c'est très très compliqué. Et puis la Suisse qui surprend assez souvent quand même.
Alors, quart de finale cette année, comme il y a 3 ans, et battu aussi au tir au but.
C'est ça, mais non, mais franchement, la Suisse, et en plus, c'est une équipe, je trouve, qui joue avec ses forces, mais qui est quand même assez plaisante à voir jouer, qui sait très bien déjouer les grosses nations.
Qui est ennuyeuse à jouer. C'est une équipe qui est défensive, compacte, qui joue très vite la contre-attaque. Enfin, il y a toujours quelqu'un sur le ballon.
Toujours Shaqiri.
Ouais, mais toujours Shaqiri, quelqu'un toujours sur lui. Le porteur du ballon,
Mais voilà, l'Italie, toujours décevante, mais c'est pas surprenant particulièrement.
Julien, il se passe quoi en Italie? Pourquoi l'équipe
nationale? Bon, pas déçu d'Italie, en réalité. Ouais, leur meilleur joueur, c'est Donnarumma aujourd'hui.
Oui, heureusement qu'il est là, oui. Ça aurait pu être pire.
Au poste clé, en fait, il n'y a pas de leader. Il manque des mecs. En attaque, Scamacca, je suis désolé, ça doit être un bon joueur, c'est pas un grand joueur. Au milieu de terrain, qui est-ce qui sait? En fait, les bons joueurs n'ont pas été au niveau. Barella, etc., n'ont pas été au niveau. On a plus les Chiellini, etc., Bonucci. On est un changement de génération et pour moi, cette équipe est pas au niveau.
Ça dure un moment parce qu'on ne les voit plus en Coupe du Monde depuis quelques éditions. Bon, excepté l'été 2020, on en parlait. Équipe enthousiaste, inattendue, qui le temps d'un été montre qu'elle est bien la meilleure équipe. Mais voilà, c'est tout. Quoi.
Bah, surtout, ils sont tombés contre une Suisse qui savait comment jouer, qui a un style de jeu bien à lui, qui est rodé, en tout cas qui semble rodé. Et il y a des leaders charismatiques, il y a des C'est pas flamboyant, c'est pas exceptionnel ce qu'ils font, mais ce qui est fait est très bien fait. Et c'est toujours cohérent. Je suis déçu même qu'ils aient été éliminés au tour suivant, parce que j'aurais été heureux pour eux que ça soit récompensé.
On va rappeler, ils ont fait 1-1 contre donc, l'Angleterre après prolongation, battu 5 tirs au but à 3, comme il y a 3 ans face à l'Espagne, au même stade de la compétition. Peut-être qu'un jour, ils vont franchir ce cap des quarts de finale. Hein.
Ouais. Ils ont posé bien des problèmes en plus à l'Angleterre. L'Angleterre a vraiment eu du mal. Ils ont réussi à ouvrir le score.
Ouais.
Ils ont bien cadenassé le jeu. Après, ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Hein.
La Suisse, en deuxième.
Ils évoluaient souvent en contre. Mm-hmm. Mais voilà, ils ont joué avec leur force. Et puis, ils ont réussi à embêter quand même des grosses nations là, durant 7 euros.
Oui. Bah, et puis c'est Bellingham qui marque le but à la toute dernière minute l'Angleterre en prolongation. Ouais. Donc c'est vraiment joué sur un fil. Ouais. Quoi.
Ça, c'est le côté individuel. Hein. C'est le talent qui fait la différence. Voilà, mais sinon, le collectif, il est donc absent. L'Allemagne qui avait battu le Danemark 2-0. Victoire logique des Allemands pour ses huitièmes avec un énorme orage.
Je crois que Bellingham, c'était au match d'avant.
Ouais. Non, c'est Saka qui a marqué là.
Ah, c'est Saka.
Oui, c'est Saka, pardon.
Là où je suis d'accord, c'est que.
Oui, c'est Saka qui a marqué pour savoir.
C'est un individu
Bellingham
qui fait la différence, pas le jeu proposé par l'équipe.
C'est ça, c'est le talent individuel qui fait la différence à défaut du collectif. 2-0 l'Allemagne devant le Danemark. Bon, victoire logique des Allemands.
Oui, logique. Hein
Malgré l'orage.
Oui. Ils ont dominé, ils ont déroulé. Ouais. Voilà, ils ont gagné logiquement.
Oui, bien sûr. Ensuite, donc l'Angleterre qui avait déjà battu la Slovaquie dans la douleur, dans la difficulté, 2-1 après prolongation. Là, déjà, on voyait les difficultés des équipes de l'équipe d'Angleterre.
Pas très beau match, mais but exceptionnel qui sauve l'équipe. Franchement,
c'est là justement que Bellingham a marqué.
Je me suis levé tout seul. Non, c'était quand même assez exceptionnel. Bellingham qui fait des fins de match à chaque fois incroyables. Ouais. Cette année, je ne sais pas combien de fois il a sauvé, que ce soit le Real Madrid ou l'Angleterre, mais c'est exceptionnel ce qu'il fait. Mm-hmm. Encore une fois, déçu par la Slovaquie qui fait un gros match pour l'effectif qu'ils ont. Hein. C'est une très grosse performance et se faire sortir comme ça. En plus, ils prennent un but juste au début de prolongation derrière. Ouais. Bon, c'est dur et derrière, tu te relèves pas. Quoi, donc...
Oui. Alors, la Slovaquie, la Slovénie, on en reparlera alors. La Géorgie, la Turquie, c'est les bonnes équipes de 7 euros 2024
J'ai envie de dire oui. Parce
qu'ils ont rempli leur contrat. Quoi.
Et voilà, ils ont rempli leur contrat. On n'attendait pas beaucoup de choses d'eux. Enfin, en tout cas, nous, en tant que Français. Et en fait, surtout qu'elles jouent décomplexées, ce genre d'équipe. Elles n'ont rien à perdre. Et donc, du coup, elles vont venir embêter les gros. Et elles proposent forcément du spectacle. Parce que. Et Deschamps devrait en prendre de la graine. Mais au lieu de jouer. De mettre le bus, au contraire, elle préfère attaquer et aller titiller l'adversaire, et ça passe de peu à chaque fois.
Oui, et puis on va rappeler que la Géorgie avait quand même gagné son premier match de l'Euro contre le Portugal, 2-0, ils ont joué
pour
les
leur toute première
de finale,
en plus.
Donc leur contrat il est rempli. Hein. Allez, un petit peu de musique avec, je crois, c'est Edith Piaf, Hymne à l'amour, et ensuite on se retrouve pour la suite de cette émission consacrée naturellement à l'Euro de foot et puis ensuite aux Jeux Olympiques.
Sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Ne m'importe si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier tant que l'amour. Inondera mes matins tant que mon corps frémira sous tes mains. Je m'aborde les problèmes, mon amour, puisque tu me. Au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi. si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi.
L'ambiance foot. Alors, le match suivant, c'était le France-Belgique. C'était la semaine dernière, on l'a vécu, on l'a dit 1-0. Bon, l'équipe de France a gagné. Ils ont assuré l'essentiel. On n'aurait pas dû gagner plus quand même, messieurs. Bah pas si, sur le match, hein, mais sur le tableau actuel.
Si, franchement, en plus, on était là, Philippe, on l'a regardé ensemble. Et c'était vraiment au bout de l'ennui. Et franchement, c'est fou quand même la réussite de cette équipe de France, quand même. Oui. Un but contre
enfin,
son
les Belges
camp.
Sont descendus bien bas aussi. Hein.
Oui, oui, non, bien sûr, mais on aurait dû produire plus. Et
on doit gagner 2-3-0. Quoi,
voilà,
match
on doit gagner 2-3-0 parce que les Belges, en plus, au départ, il avait fait une compo qui était assez offensive, le sélectionneur belge. Mais malgré tout, on voyait rien, quoi. Il n'y avait rien, à part Doku, part un peu Doku et Onana, un petit peu au milieu de terrain. Voilà. Mais non, c'était très compliqué comme match à regarder, en tout cas.
Oui, messieurs, on en a un petit peu parlé. Cette équipe belge, je pense qu'elle a raté le coche il y a quelques années.
Ouais, je pense qu'elle a raté le coche parce qu'on voit clairement un changement de génération qui se fait un peu dans la difficulté, notamment en défense. Quand tu es obligé de faire jouer un Vertonghen qui a presque 40 ans et qui n'est pas au top de sa forme aujourd'hui, il y a de sacrés manques en défense. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de... Comment dire, le groupe ne vit pas bien, contrairement ce qui est dit.
C'est pas nouveau chez les Belges, Flamand, Vallon.
Ouais, mais t'as l'impression que dans toutes les équipes, on dit toujours le groupe vit bien, le groupe vit bien. Honnêtement, il dégage pas grand chose, ce groupe-là.
Il s'en cache pas trop, parce qu'il y avait des embrouilles avec Thibaut Courtois.
Exactement.
Etc.
Ouais, bon, déjà, quand il y a des problèmes de femmes entre les joueurs, qu'il y a des... ça complique un peu la chose.
Ça ne nous regarde pas.
Mais à la fin. Mais la finalité, c'est quoi? C'est de se dire. Deschamps a raison. Il prend un groupe, il prend pas les meilleurs joueurs, mais il prend des joueurs qui s'entendent.
Ah bah ça, c'est bien connu. Hein. Même Jacquet, on s'entend. Hein.
Ouais, on l'aurait dit.
Il a fait pareil. Hein.
C'est super important, même pour moi qui suis néophyte. Et pour un mot, parce que j'ai quand même vu quelques moments de match, le match France-Portugal, je tenais à le suivre, même si j'étais quand même en partie en famille. Et au final, j'ai vu la deuxième mi-temps chez moi et je me suis endormie au bout de 110 minutes. Et donc, je n'ai pas vu les tirs au but.
Pourtant, c'était une des meilleures mi-temps de la France.
Et s'il y avait une chose à voir, c'était au moins les tirs au but. Parce qu'au moins, ils ont tous été beaux et bien réussis. Hein.
J'ai vu les tirs au but Suisse-Angleterre.
Ouais.
Et j'ai vu la fin du match Turquie-Pays-Bas que j'ai bien aimé. J'ai trouvé quand même qu'il y avait de l'accroche sur le Turquie-Pays-Bas et que c'était quand même. Il y avait du suspense.
Oui, c'était sympa, Turquie-Pays-Bas.
C'était un bon match, même moi en tant que néophyte du football.
Ouais. Voilà. Alors ensuite, il y a eu le Portugal-Slovénie, on en parlait, 0-0, 3-0 au tir au but. Nos amis portugais s'étaient mis en jambe pour la séance de tir au but. Celle-là, ils l'ont gagné, mais ils ont perdu la suivante.
Bah, c'est ça, et en fait, c'était le match à 21h. Nous, c'était 18h France-Belgique et 21h Portugal-Slovénie. Oui. Et on savait que ça allait être le futur adversaire de la France, et on a été un petit peu rassurés finalement de voir le match du Portugal. Ouais. Parce que c'était aussi assez catastrophique. Et moi, très rapidement, je fais un aparté, mais ce que je dis à chaque fois, c'est que Cristiano Ronaldo, pour moi, il a un peu plombé, malheureusement, parce que c'est un énorme joueur, et ça me fait un peu mal de dire ça, mais il a un petit peu plombé le jeu.
C'est peut-être
jeu,
la compétition
quoi.
De trop pour lui, là.
Compétition
déjà au Mondial 2022.
Mauvaise gestion de Martinez. Ouais. Enfin, je veux dire, au vu de l'effectif du Portugal, il jouait un petit peu à 10, quoi, parce que c'était compliqué de jouer avec un joueur qui n'avance plus, malheureusement.
Ce qui est compliqué pour le coach, c'est que tout simplement, en ne mettant pas Ronaldo, il se mettrait en difficulté personnellement.
Ouais.
Et que il a pas envie
de vestiaire, non,
je pense,
du vestiaire, non, non,
je
non.
pense médiatiquement ouais. d'abord, oui, médiatiquement, parce que en fait, c'est con à dire, mais tu mets pas Ronaldo sur la compète, tu le mets sur le banc et ça crée des problèmes. Ouais. Derrière, en fait, pendant 10 ans, on va en parler. Qu'il n'a pas fait jouer Ronaldo, etc. Donc là, en fait, il s'achète une paix et il s'achète encore 2 ans de contrat, quoi. Enfin, il garde ses 2 prochaines années de contrat pour arriver à la Coupe du Monde et la faire.
Oui, parce qu'on se rappelle sur la finale de l'Euro 2016, il avait été blessé, Ronaldo, il était sorti. Il avait été très
par
influent, ça, de la touche. Hein. Il avait... Ouais.
Il faudrait qu'il reste sur le banc de la touche.
Et oui,
non, c'est méchant, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a encore 2 ans, je pense que tu mets Ronaldo sur le terrain, ça fait peur aux défenseurs. Aujourd'hui, je pense que c'est moins le cas.
Et au contraire, ils s'en réjouissent, je pense.
Et clairement, aujourd'hui, à part sur 1 ou 2 centres où il peut aller mettre une tête, on s'inquiète pas vraiment de Ronaldo. Il prend plus les gens de vitesse, il a plus cette capacité d'accélération, de faire des différences. Donc ouais, c'est un peu un poids pour l'équipe et c'est dur à dire, mais aujourd'hui, il doit pas jouer avec l'équipe du Portugal.
Mm-hmm. Voilà. Quand, tout simplement, pour illustrer les propos de Julien, quand tu regardes la défense française, par exemple, avec Ronaldo, il y a quasiment, si je dis pas le petit, si, il y a tous les joueurs qui ont au minimum 10 ans de moins que lui.
Oui.
Quasiment. Donc forcément, quand tu es attaquant et qu'il te manque le petit coup de rein pour passer ces jeunes-là, et puis en plus, qui plus est, jouent dans des très grands clubs en Europe, voilà, c'est compliqué pour le Portugal.
15 ans même. Hein, 15
oui.
ans.
Ouais, parce que
je voulais dire 15 ans. Je voulais dire 15 ans, mais...
Il y a un autre ancien, c'est Pep, mais lui, l'arrière. Alors, c'est différent. On a déjà eu des cas d'arrière qui ont joué plus
franchement,
vieux
Pep,
et plus
longtemps.
Franchement,
Pep, on peut tirer notre chapeau parce qu'il a fait un euro excellent. Et le match contre la France, c'était vraiment excellent.
Ah oui, oui. Ouais, c'est un vrai guerrier.
Ça se fait plus. On a vu des Maldini, par exemple, en Italie. Ferdinand, un petit peu.
Ouais, jusqu'à 40 ans, Maldini.
Donc, ouais, défensivement, avec le placement...
C'est peut-être plus facile pour un arrière, non?
Parce que les courses sont un peu différentes.
Oui, c'est plus facile pour un arrière, surtout pour un arrière comme Pepe, dont la vitesse n'a jamais été la plus grande qualité.
Bien sûr.
Donc en fait, il a toujours joué sur l'anticipation, sur d'autres choses. Donc finalement, c'est pas un handicap si grand que ça pour lui de continuer à cet âge-là. Après, évidemment, sur une ou deux actions, ça peut porter préjudice à l'équipe, mais c'est pas arrivé. Aujourd'hui, il a fait une grande compétition.
Alors les Pays-Bas qui ont battu la Roumanie 3-0, vous en avez pensé quoi de ce match? On s'est dit, tiens, ça y est, peut-être que les Pays-Bas commencent à monter en puissance. Et puis les Pays-Bas, après, ont quand même éliminé en quart de finale la Turquie 2-1. Mais ça a été quand même compliqué pour les Pays-Bas face à la Turquie.
Les Pays-Bas qui, selon moi, ont fourni un très bon match contre la Roumanie.
Oui.
Parce que c'est...
Une bonne entame des Roumains, puis après les Pays-Bas, on
voilà, c'est ça. Jusqu'au but où le gardien roumain n'est pas forcément exempt de tout reproche. Après, voilà, c'est l'un des matchs où il y a eu le plus... d'écart selon moi entre les deux équipes et puis à vrai dire j'ai pas pu suivre.
Les Roumains ils sont à leur niveau de toute façon.
Oui c'est déjà très bien de se qualifier pour les huitièmes pour la Roumanie en ayant battu en plus une équipe d'Ukraine qui en poule sur le papier était pas moins bonne qu'eux.
Bah c'est le groupe où ils ont tous fini avec le même nombre de points, ça s'est joué
Slovaquie, Belgique,
au golavrage et même je crois sur certains matchs sur certains groupes au carton Alexandre?
Oui, bah comme a dit Julien et pardon, excuse-moi.
Loan,
excuse-moi.
Voilà.
C'est que non, il y avait un surclassement des Pays-Bas, mais sans surprise finalement parce que ils partaient favoris, ils l'ont été, et puis pas de grand chose à dire en vrai sur ce match-là.
Mais autant il y a des équipes qui sont tombées comme la Slovénie, la Slovaquie ou la Géorgie, la tête haute, autant la Roumanie, bon, voilà.
Mais il y a peut-être aussi un manque de joueurs qui jouent à très haut niveau en club.
C'est ça le problème, dans ces pays de l'Est, là.
Là, enchaîner des matchs tous les 3-4 jours, ce n'est pas évident pour toutes les équipes. Sagnol le soulignait pour la Géorgie, mais ce n'est pas un cas unique. C'est vrai que la Géorgie, ils partent de plus bas. Ils ont des joueurs qui jouent en 3-4e division, pour certains. Mais il le disait, on arrive sur les 8e avec beaucoup d'incertitudes. La plupart n'ont jamais joué autant de matchs aussi rapprochés. Donc, je pense que c'est un peu la même chose pour la Roumanie. Il y a beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas le très, très, très haut niveau.
Et puis, bon, par exemple, pour revenir au cas de la Géorgie, bon, ils font un match qui est parfait contre le Portugal. Le problème, après, pour ces équipes-là, c'est de refaire le même type de match, tant physiquement que psychologiquement. Quoi.
Oui, après...
Et c'est là qu'on voit qu'il manque la haute compétition. Quoi.
Le Portugal, mine de rien, était déjà en bonne position, déjà qualifié, donc ça a laissé aussi...
Il avait changé tout le 11, sauf le
11. En plus, ça a aidé, oui.
Après, ça enlève rien à une belle performance géorgienne. C'est un super exploit pour eux. Mm-hmm. Mais voilà, c'est pas comparable de ce fait-là. Quoi.
Et l'Autriche, donc battue par la Turquie dans le dernier huitième de finale, 2-1. Ils étaient sortis en tête de la poule. Et puis finalement, ils sont éliminés alors que les Pays-Bas, qui avaient terminé troisième, eux, sont en demi-finale.
Ouais, j'étais assez surpris de ce match-là parce que moi, je mettais l'Autriche.
C'était un match sympa aussi. Hein.
Comme on l'a dit, c'est les équipes qui sont...
Grâce aux Turcs.
Grâce aux Turcs, mais les équipes qui sont un peu moins favoris en fait produisent du meilleur jeu parce qu'elles jouent décomplexées. Mmh. Et en fait, l'Autriche, moi je pensais vraiment qu'ils allaient gagner ce match et plutôt assez aisément parce que les Turcs en phase de poule, bon, il y a eu des beaux buts, mais c'était quand même un peu poussif, je trouve. Et finalement ils ont su inverser la vapeur et gagner ce match.
Ouais, alors c'est vrai qu'ils ont souffert dans la dernière demi-heure dans des très mauvaises conditions météo, mais alors quelle preuve de solidarité, hein, Johan.
Oui, c'était...
Ils ont résisté à la furia autrichienne.
Oui, avec un superbe...
Arrêt du gardien. Il n'y a même pas 20 secondes de la fin, quoi.
C'est ça.
Hein, c'est déterminant.
Ouais, mais j'étais surpris que le défenseur lâche le marquage sur cette action-là, parce qu'il se retrouve bien seul derrière. Ouais. Mais l'arrêt du gardien est exceptionnel, parce qu'a priori, il est pris à contre-pied, et il arrive à se décaler dans la dernière seconde... Franchement, il sauve le match. Mais c'est vrai que je me serais attendu aussi à une victoire de l'Autriche plutôt que de la Turquie, qui est un peu sur courant alternatif. On ne sait pas trop comment la jauger, cette équipe-là.
Oui.
Ils sont capables de mettre des super buts, de construire des belles actions. Mais d'un moment à l'autre, ça peut aussi encaisser beaucoup de buts.
Bon, l'Autriche qui s'incline aussi en huitième de finale, comme il y a 3 ans. Bon, cette équipe, elle est à son niveau aussi, parce qu'on avait dit qu'on avait un petit peu tendance à la sous-estimer. Bon... Finalement, elle est à son niveau, quoi.
Oui.
C'était Deschamps qui avait dit ça, mais probablement pour que les joueurs restent
Elle est
concentrés.
À son niveau parce que elle a des bons joueurs, mais pas des très bons joueurs.
Oui.
Et elle essaye de développer du bon football avec un jeu, parfois rugueux, parfois fluide.
On l'a vu contre l'équipe de France, ça a été parfois limite. Hein.
C'est ça.
C'était un petit peu dur. Hein. Ouais.
Donc elle est à son niveau. Elle n'est pas considérée comme une top nation européenne, hein, selon moi. Voilà. C'est une bonne nation qui a fait bonne figure, qui finit devant l'équipe de France et devant les Pays-Bas, phase de groupe.
Attends, ça bouge. Mais nous, on est encore là, les Pays-Bas sont là, l'Autriche n'est plus
comme
là.
Comme quoi, les phases de poule.
C'est une autre compétition après les matchs d'élimination directe. Hein, Et puis, les quarts de finale, donc on y est arrivé. Espagne-Allemagne, on l'a dit, 2-1 après prolongation pour l'Espagne. C'est le match de l'Euro. Au niveau de l'intensité, c'est quand même un match qui a dépassé tous les autres, quoi.
Oui, je pense qu'on peut le dire que c'est le match de l'Euro, déjà au vu de l'affiche. Et en plus, comme tu l'as dit, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup d'intensité. Il y avait 2-11 qui étaient plutôt cohérents, qui étaient plutôt bons. Et que même au vu du début de compétition, c'était un peu les deux équipes qui avaient montré
le plus beau football.
Voilà. Mais sans surprise, comme je l'avais dit aussi, l'Espagne a gagné.
Ouais, mais enfin, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre.
C'était loin d'être facile, mais selon moi,
pas grand-chose quand même.
Oui, bien sûr, c'était loin d'être facile, mais selon moi, quand même, l'équipe qui a montré le plus de certitude et de cohérence a gagné. Et en fait, ce que je disais en fait sur l'Espagne, c'est que avant, ils avaient une équipe qui était bonne. Pour les sortir, il fallait tout le temps aller au tir au but ou en prolongation. C'est une équipe qui était bonne dans la conservation du ballon. Défensivement, ça a toujours été un petit peu limite, mais dans l'ensemble, c'était cohérent. Et en fait, il manquait 2 accélérateurs sur les côtés et ils les ont eus. C'est Nico Williams et Lamine Yamal qui font quand même un très, très gros euro pour leur âge. Et donc, voilà, ça change tout. Et voilà, c'est une équipe qui fait un bon mélange entre les jeunes, les plus expérimentés. Donc voilà, franchement, l'Espagne, rien à dire pour l'instant. Ça va être très coriace pour
Alors justement, pour l'équipe de France, d'abord un petit mot sur ce Allemagne-Espagne. Julien, tu es d'accord, c'est le match de l'Euro pour l'instant?
Oui. Ah. Et puis comme il le disait juste avant, en fait, le fait de mettre Nico Williams et Yamal change beaucoup de choses. En fait, ils ont conservé ce jeu de possession, mais en mettant des ailiers qui prennent des risques. Alors qu'avant, c'était des... on refaisait tourner la balle, un peu à l'image de City de Guardiola. Grealish ne déborde jamais,
très vite aussi, hein.
Jamais une différence balle au pied. Il refait toujours la même chose et il la remet derrière. Là, on a deux joueurs qui n'ont pas peur de créer. On leur demande d'aller chercher le 1 contre 1 et c'est hyper plaisant à voir et ça apporte une vraie touche en plus à cette équipe-là.
Alors, ce qui va être sympa, c'est que c'est la meilleure attaque de l'Euro contre la meilleure défense demain. Alors
ouais.
On espère que c'est la meilleure défense qui va gagner.
D'autant plus que l'Espagne sera décimée en défense.
Oui, oui, bah on l'a dit, manque de joueurs, plus Pedri devant. Donc, ouais.
Ce sera peut-être le déclic. Ouais.
On va quand même rappeler que cette équipe avait gagné la Ligue des Nations l'année dernière et que c'est l'équipe qui a été championne d'Europe Espoir il y a 5 ans, je crois. Donc c'est cette génération-là. Hein. Je me rappelle qu'elle avait notamment battu nettement l'équipe de France.
Ah oui, avec 4-0, les Daniel Olmo, etc.
Ouais, ouais. Okay. Et là, c'est cette génération-là. Hein. Donc attention, hein, le football espagnol qui revient au tout premier plan.
Ouais, puis il y a des joueurs surprenants dans cette équipe-là, parce que Fabian Ruiz à ce niveau-là, on l'a pas tout le temps attendu à ce niveau-là.
Comme beaucoup, il faut qu'il soit pas au PSG.
Ouais. C'est bon, plus. Il y a des joueurs qui sont en bonne forme à cet Euro, alors que dans les autres équipes, ça manque de joueurs qui font des différences. Quoi.
Donc Espagne-France. Bon, je veux pas demander un petit pronostic, c'est compliqué. On mettra l'équipe de France à côté Cocardier, non?
Voilà.
Ouais, au tir au but,
on va être un petit peu chauvin.
Au tir au but, encore à nouveau?
Non, 2-1 pour l'équipe de France.
2-1 pour l'équipe de France, ouais. Julien, ça va être compliqué.
1-0 pour l'équipe de France. Ouais.
Bon, pareil avec ça.
0-0 prolongation et 1-0 pour l'équipe de France.
Voilà, puis Vanessa, souvent les noms spécialistes, c'est au courant.
Oui, mais je dirais un peu comme Alexandre.
Oui, pareil.
1-0 en prolongation.
Ouais. Mm-hmm. Si tu avais pu dire 4-1, on aurait été contents.
Ouais, 4-1.
Non, mais je suis réaliste quand même. Hein, pas spécialiste, mais réaliste.
Bon, Angleterre-Suisse, on en a parlé. Portugal-France aussi. Et Pays-Bas-Turquie, donc 2-1, on en a aussi un petit peu parlé. Cette équipe turque qui a vraiment posé des problèmes aux Pays-Bas.
Juste un petit retour sur Portugal-France. Oui, moi, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est la séance de tir au but. Le choix de Ronaldo de tirer en deuxième.
Oui, alors.
C'est justement surprenant, surtout qu'il gagne l'autre séance de tir au but, si je ne dis pas de bêtises, en étant premier frappeur.
Oui.
Et là, il a le choix et il les laisse frapper en premier. Alors que statistiquement, on sait que, et je pense qu'il le sait lui-même, qu'il y a 55% de chance de gagner quand on est la première équipe à frapper et encore plus quand on marque le premier but.
Oui, 65.
Exactement.
Parce qu'on met la pression sur l'adversaire.
Exactement.
Bah,
la pression, le côté psychologique rentre encore plus en compte. Donc c'est surprenant comme choix. Bon, après, ils comptaient certainement sur leur gardien qui a fait des merveilles autour d'avant, mais cette fois-ci.
Le gardien, le problème, c'est qu'il y a un poteau. Sinon, les autres, tous les pénaltys, même portugais, sont bien tirés quand même. Hein. Après, il y a le poteau. Bon, voilà, c'est ce qui fait la différence. Hein.
Alors. Ouais. Tous les pénaltys, je sais pas, Fofana, c'est pas un pénalty incroyable, mais il le met.
Mais
surpris de certains tirs, effectivement, Koundé par exemple, il y a des joueurs qui n'ont jamais frappé de pénalty en carrière.
Ouais, ils l'ont dit, c'était en U19 la dernière fois qu'ils avaient tiré.
C'est une pression énorme quand même.
En plus,
énorme,
on a eu un peu peur parce que Griezmann était sorti, Mbappé était sorti, on s'est dit mince, on va attaquer.
Et Giroud devait rentrer.
Et Giroud devait rentrer, ouais. Donc on s'est dit, on va attaquer la séance de tir au but avec quand même des joueurs qui expérimentés, quoi. Donc, qui connaissent plusieurs fois ce genre d'exercice.
Moi, j'étais le premier défenseur du Goloris, donc je cracherai pas.
Je suis 100%, on est ensemble, Loan.
Mais force est de constater que maintenant, on a Mike Maignan qui est assez monstrueux durant les séances de tir au but ou même lorsqu'il y a un pénalty pendant le match et il prend de la place dans le but.
Oui, il prend de la place.
Donc les équipes face à l'équipe de France tout de suite sont un petit peu moins sûres de leur force, disons. Ouais. Et puis psychologiquement. Ça joue, ça rentre en compte.
Loris, c'est un super gardien, mais malheureusement, il a perdu pratiquement toutes les séances de tir au but. Quand il a joué, à l'inverse de Barthez, qu'il a gagné, lui.
Il a gagné pas mal aussi.
Non, mais Maignan dégage vraiment quelque chose de particulier, une certitude, quelque chose de... Je pense que l'aura qu'il a, ça transmet quelque chose à l'équipe adverse. Et comme vous le dites, sur les tirs au but, sur les pénaltys, il est bon. Loris, comme vous, je suis un grand fan, vraiment. Mais sur les pénaltys, on avait très peu de chance et j'y croyais pas une seule fois.
On va quand même rappeler, beaucoup disent oui, c'est une loterie. Alors oui et non, parce que c'est un geste de footballeur. Et puis, il faut savoir, il y a le côté émotionnel, il faut savoir gérer ce côté émotionnel à l'instant T. Voilà. Donc ce geste de footballeur, faut pas se louper à l'instant T. Hein. Donc faut bien le rappeler quand même. Hein.
Surtout quand on voit tous les visionnages maintenant qui existent, toutes les nouvelles technologies. qui permettent de savoir où le joueur tire, par exemple pour les gardiens, ou alors bah, aussi savoir, je pense, hein, que pour les joueurs, ça doit aussi rentrer en compte l'analyse du gardien qu'ils ont en face d'eux.
Mais j'ai cru comprendre qu'ils n'en avaient pas mis un pendant la séance d'entraînement. Donc, ils n'ont pas pu donner d'indication à l'adversaire.
On s'en fout, ça. Ouais, ouais. Au fait, pour les gardiens, donc, bouger, pas bouger, la règle elle est souvent difficile quand même. Hein.
Ouais, elle est souvent difficile.
Elle
n'est
pas toujours appliquée.
Elle est bien stipulée dans le livre.
Ouais.
Un gardien doit toujours faire face au tireur. Ça, il faut savoir. Hein,
alors, lui,
le
joueur, il peut bouger, il peut marquer un temps d'arrêt.
À l'époque, à Lens, il y avait Charlie Tange. Qui bougeait, qui touchait la barre, etc.
Oui, oui.
Voilà. Le gardien doit être. Dans une posture de footballeur, face au tireur, ne doit pas toucher les montants, etc.
Ouais.
Et puis après, au moins un des deux pieds doit être à la hauteur de la ligne de but,
ouais.
Jusqu'au moment où le tireur va frapper dans le ballon.
Et le joueur, lui, peut arrêter son action puis repartir, quoi.
Pas sur son dernier appui.
Ouais, je sais
pas
ouais,
réellement
ouais.
dans son dernier appui. Mais sinon, il peut, dans la course, c'est possible.
Ouais. Mais souvent, quand on fait retirer des pénalties, c'est plus à cause du gardien que de l'attaquant.
Ou du joueur qui tient le pénalty. C'est souvent le cas. Alors, il n'y a pas de statistiques de fait, mais c'est vrai que quand il y a intervention de la vidéo, il y a souvent le gardien qui est quelque peu incriminé.
Je trouve ça dommage. Honnêtement, j'aime pas du tout cette réglementation de devoir garder le pied sur la ligne. Parce qu'on le voit, quand Kane fait deux arrêts,
c'est difficile.
À un moment donné, le gardien, il faut aussi lui laisser une liberté de mouvement un minimum. Et aujourd'hui, on favorise justement les attaquants pour qu'il y ait plus de buts, etc. Mais je trouve ça ultra dommage, parce que moi, j'aimais bien un peu ce folklore, justement, d'un Charlie Tange ou de mecs comme ça, qui amènent quelque chose, une énergie, un truc. Et t'as l'impression qu'on leur dit, maintenant, tu restes comme ça, tu bouges plus, et puis t'attends que ça rentre. Quoi. Je trouve ça un peu triste. Ils ont beaucoup moins de moyens d'exprimer. Les tirs au but, c'est leur moment, quoi, je veux dire, aux gardiens. Encore une fois, Kane, il fait peut-être pas des arrêts complets, mais quand même, il stoppe sa course deux fois, je suis désolé. Tu stoppes une fois, ça pousse le gardien déjà à réagir. Donc, qu'il enlève son pied de la ligne, je veux dire, c'est logique, c'est humain, en fait.
Ouais, ça. Malheureusement, les lois du jeu qui sont régies par. L'IFAB pour tout le monde, hein. Attention, c'est vraiment c'est les lois qui régissent le football dans le monde entier sont faites comme ça. Et après, quand on est arbitre, il y a simplement à appliquer. Ça aussi, c'est assez binaire.
Ça, bien sûr, je le comprends tout à fait.
Alors, pour revenir sur l'arbitrage, bon, on en parlait il y a 15 jours, mais bon, il y a eu beaucoup de matchs depuis. Finalement, excepté peut-être Allemagne-Espagne, avec ce penalty non sifflé, cette faute qu'on n'a pas sifflée sur Kroos. Bon, il y avait une forme d'indulgence. Il n'y a pas eu de gros problèmes, quand même.
Il y a un gros niveau. Ouais. Un gros niveau arbitral. Intéressant à voir, justement. Il n'y a pas de polémique.
Oui. Hein. Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas de polémique.
On sait que
tout va bien,
dans les journaux, on aime parler de l'arbitrage à tort ou à raison. Mais là, il n'y a pas de polémique. Alors, peut-être parce que ça n'a pas touché l'équipe de France aussi. Et puis,
Non, mais même sur les autres matchs. Enfin, bon. Mais
sur les autres matchs. Ouais. Non, bah, franchement, sur les autres matchs aussi, c'est du très costaud.
Oui, oui, oui.
C'est des cadors européens
qui sont dans
la compétition. Mm-hmm. Et puis, à noter que.
Turpin, le Texier, c'est bien. Hein.
Ils sont encore dans la compétition. Ouais. Malgré.
Ils peuvent arbitrer la finale, Turpin.
Ils peuvent arbitrer la finale encore parce qu'ils n'ont pas été renvoyés chez eux en France. Si l'équipe de France perd,
naturellement, ouais.
Voilà. Et je ne sais pas si c'est une bêtise, mais il y a une troisième place aussi, si je ne dis
non,
pas de bêtises.
Non, il n'y a pas de troisième place. Okay. Ça a été supprimé, bizarrement. Il y a la troisième place qui a été maintenue en Coupe du Monde. À l'Euro, on a joué très longtemps la troisième place. Et puis, je crois que depuis les années 2000, on ne fait plus la troisième place parce que je trouve ça un petit peu dommage. On le maintient pour le Mondial, pas pour l'Euro. Bon, voilà, on estime que souvent, les équipes sont un petit peu démobilisées après leur défaite en demi-finale. Ce qui n'est pas toujours vrai. Hein. Il y a des matchs, souvent, même des matchs de troisième place, on en a vu qui ont été bien meilleurs que la finale, hein, sur une Coupe du Monde. Hein. Voilà, dans le plan du jeu. Mais enfin, bon...
Du manque d'enjeux, justement.
Voilà, c'est ça.
Ouais, parce que finalement, troisième place, je pense qu'il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de...
Il y a une troisième place, quoi.
Mais c'est symbolique, en fait. À la limite, il y a certains coachs qui vont faire jouer quelques remplaçants qui ont moins eu de temps de jeu, puis d'autres qui vont mettre l'équipe type pour quand même accrocher cette troisième place. Il n'y a pas de logique réelle. Et en fait, c'est un match, c'est un petit bonus, mais ça n'a pas un grand intérêt non plus.
Donc, ils l'ont maintenu en Coupe du Monde et ils ne l'ont pas maintenu donc, à l'euro. Enfin, voilà. Allez, on va écouter la deuxième pause musicale, Modern Talking, et ensuite, on va passer à la page JO. On parlera un tout petit peu aussi de la Copa América, puis ton journal des sports. Hein.
Voilà. Absolument.
Allez, on y va. La musique au parlement.
I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take a chance for a man. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, sherry lady, living in devotion.
Allez, on passe de Chéri Chéri Modern Tenkin à donc notre ami Alexandre pour un abondant journal des sports. Quelle actu encore, Alexandre hein?
Grosse actu, ouais. Et on commence au journal des sports avec le Tour de France, ouais. Philippe.
Ils sont au repos aujourd'hui.
Non, aujourd'hui, oui, ils sont au repos et ça reprend demain. Dimanche, donc, c'était Anthony Turgis qui remportait cette 9e étape. Et au classement général, bien sûr, l'inévitable Tadej Pogacar qui est maillot jaune. Derrière lui, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard complètent le podium. Le premier Français à apparaître dans le classement, c'est seulement Guillaume Martin à la 23e place. Donc, c'est quand même assez loin, malheureusement.
Mais quand même, 3 victoires d'étape françaises sur le Tour de France.
C'est assez rare pour être souligné.
Semaine, c'est bien quand même.
Un point sur Wimbledon maintenant, oui. Où on connaît les premières affiches des quarts de finale. Sinner affrontera Medvedev et Alcaraz jouera contre Tommy Paul. Les deux Français qui étaient encore en lice se sont fait malheureusement sortir cet après-midi. Demineur a gagné 3-7 à 1 contre Arthur Fils et Musetti a gagné lui aussi 3-1 contre Petit Ricard.
T'imagines si Alcaraz gagne Wimbledon et que l'Espagne est champion d'Europe le même jour?
Alors, ouais, ce serait vraiment. Parce que c'est dimanche.
Ah oui,
ouais, c'est ça.
Ouais.
Chez les femmes, pareil, on connaît aussi les premières affiches des quarts de finale. Sun contre Vekic et Paolini contre Navarro et Rybakina contre Svitolina. L'événement chez les femmes, c'est bien évidemment les éliminations de la numéro 1 mondiale Iga Świątek dès les 16e de finale face à la Kazakh Yula Puntitseva et celle de la numéro 2 mondiale Coco Gauff en 8e de finale contre l'américaine Navarro. Et Philippe, grande nouvelle, je suis heureux de l'annoncer, la victoire enfin de Lewis Hamilton dans un Grand Prix.
C'est bien.
C'est à la maison en plus pour lui à Silverstone en Grande-Bretagne. Il n'avait plus remporté de Grand Prix depuis plus de 2 ans et 7 mois. 104e victoire pour le septuple champion du monde. Et il l'a défini comme la plus importante de sa carrière. Derrière lui, bien sûr, Max Verstappen et Lando Norris qui complètent le podium. Au classement des constructeurs, toujours Red Bull devant avec 373 points, Ferrari deuxième avec 302 points et McLaren troisième avec 295 points.
Il signe chez Ferrari, c'est ça?
Il signe chez Ferrari avec Charles Leclerc, ils seront tous les deux ensemble. Ouais. Mercedes se rapproche peu à peu donc du podium avec 221 points. Il y avait également le Grand Prix de moto en Allemagne et c'est l'inévitable Francesco Bagnaia qui a remporté cette course juste devant les Espagnols Marc et Alex Marquez. Bagnaia et son écurie Ducati sont tous deux leaders dans leur classement respectif. En rugby maintenant, je vous rappelle que le 15 de France a remporté ce samedi son match amical contre l'Argentine 28-13. Il y a eu aussi l'événement extrasportif.
Ça, c'est pas beau, mais bon, c'est bien.
Melvin Jouemet,
c'est bien de le mettre dehors, c'est pas beau. Bah, c'est... Vous voyez comme quoi le rugby, hein, on parle des valeurs du rugby, mais vous voyez.
Petit aparté, mais il est d'une bêtise de faire ça. Je pense que Toulon prendra certainement des mesures. Donc on verra par la suite. Pour les autres...
Donc raciste, il a été exclu de l'équipe de France.
Pour les autres résultats principaux, sachez que la Nouvelle-Zélande a gagné 16-15 contre les Anglais, l'Australie s'est imposée 25-16 contre le Pays de Galles et l'Afrique du Sud s'est imposée 27-20 contre l'Irlande.
Que des victoires de l'hémisphère sud.
C'est ça, les favoris qui gagnent tranquillement. Et pour finir ce journal des sports, Philippe, meeting exceptionnel dimanche à Charletti.
Qui était à côté là,
juste à côté dans le 14e avec 2 records du 13e, monde.
C'est limite, mais c'est 13e.
C'est considéré, oui, 2 records du monde à la hauteur pour Yaroslava Makuchik avec 2m10 de sauté et sur le 1500 mètres pour Faith Kipyegon, pardon, avec 3 minutes 49. Gabriel Tual au 800 mètres, Alice Finot au 3000 mètres Staple et Agathe Guillemot au 1500 mètres battent quant à eux les records de France. Armand Duplantis, bien sûr, a remporté l'épreuve de saut à la perche avec ses 6 mètres franchis. On peut aussi citer Alexander Ogando qui a remporté le 200 mètres homme ou encore Jamel Sedjati, l'Algérien, qui finit premier du 800 mètres homme.
Donc un beau meeting quelques semaines avant les Jeux. Il va le faire meilleur parce qu'il s'est blessé, je crois. Il était incertain, mais apparemment, il y a des bonnes infos.
Apparemment, ça devrait le faire pour meilleur, même s'il s'est blessé hier. Les dernières nouvelles disent qu'il pourrait participer aux Jeux Olympiques, heureusement, parce que bon, c'est quand même un énorme athlète.
Bien sûr.
Donc, heureusement.
Allez, justement, la transition est faite avec l'actuelle olympique, Vanessa. Elle a beaucoup travaillé, elle est allée faire des reportages sur le foot, et puis là, elle a enchaîné sur la semaine olympique, et notamment avec la présentation du village olympique cette semaine.
Oui, tout à fait, le village olympique, la présentation, c'était mardi dernier, le 2 juillet, et en présence de Tony Estanguet et Laurent Michaud, le directeur du village olympique. Donc ce village, là en ce moment, il y a les vérifications de sécurité qui sont en train de se dérouler. Il ouvrira d'ici une semaine avec l'arrivée des premiers athlètes. Et puis, le 18 juillet, ce sera vraiment les premières arrivées massives. Ce village olympique, c'est vraiment le symbole de la réunion des athlètes. Il va recevoir 14 000 résidents, 9 000 athlètes, 5 000 accompagnants, les délégations qui viennent de 206 comités nationaux olympiques. Donc vraiment, la réunion et l'universalité, comme le disait Tony Estanguet. Et justement, on va écouter Tony Estanguet qui était là à la présentation de ce village. Du village, pardon, excusez-moi.
Nous sommes ravis de vous accueillir avec Laurent Michaud, le directeur du village de Paris 2024, ici au village des athlètes. Il va fermer définitivement dans 2 jours. Et donc c'est la dernière opportunité finalement pour vous de pouvoir visiter l'ensemble de ces espaces. Vous savez, pour nous c'est un endroit extrêmement important, très particulier. C'est ce qui fait quand même un peu la spécificité des Jeux. Tous les athlètes qui vont participer, on se souviendront à jamais de cette vie à l'intérieur du village qui est complètement atypique. C'est pour la plupart d'entre nous qui avons été athlètes un moment un peu suspendu où on se retrouve avec tous les autres sports, avec tous les autres pays, à partager un moment. On a la même chambre, les mêmes lits, on a les mêmes espaces de restauration et tous les services finalement qui sont proposés à l'ensemble des athlètes. Nous, on est très heureux effectivement du résultat de ce village. C'est le résultat d'une œuvre collective hein, entre la Solideo qui a réussi à mobiliser plus de 3000 ouvriers, plus de 500 entreprises pour réussir à imaginer, concevoir et livrer dans des temps qui n'étaient pas forcément évidents l'ensemble de ces ouvrages. D'abord imaginez d'ailleurs pour répondre aux besoins de la population, vous le savez, 6000 personnes vont habiter dans ce village, 6000 personnes vont travailler dans ce village après les Jeux, et nous on a trouvé cet équilibre pour qu'il puisse aussi répondre à nos besoins parce qu'il est bien implanté à moins de 10 km pour 80% des athlètes de leur site de compétition. Donc ça répond parfaitement au cahier des charges qui nous avait été fixé par le CIO et l'IPC. Et on est encore une fois très 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 content du résultat. Moi je voudrais remercier aussi les 32 entreprises partenaires de Paris 2024 qui ont apporté leur savoir-faire pour que les athlètes soient dans les meilleures conditions. On a vraiment essayé d'imaginer le parcours de vie des athlètes quand ils se reposent dans sa chambre, quand il doit aller se restaurer, quand il doit se déplacer sur les sites de compétition, quand il doit aller s'entraîner, comment à chaque fois est-ce qu'on trouve avec nos partenaires des particularités pour que les athlètes soient dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, grâce à la mobilisation générale de ces entreprises, on a réussi, je pense, à garantir le fait que les athlètes soient dans de très bonnes conditions de préparation pour ces Jeux. Donc peut-être un mot sur le contexte actuel. Vous le savez, la France est en train de vivre un moment démocratique majeur de l'histoire de notre pays. Nous, bien évidemment, on regarde ça avec beaucoup d'attention. On est embarqué dans cette aventure depuis maintenant 10 ans. Et c'est vrai que depuis 10 ans, on a cet état d'esprit et cette mission d'ouvrir grand ces Jeux. Ouvrir grand ces Jeux, c'est devenu un slogan, mais c'est vraiment un état d'esprit qui nous anime depuis le début, de réussir à chaque étape du projet, de repousser le niveau d'ambition le plus haut possible pour offrir finalement ce que ce pays a de mieux à offrir en termes d'audace, en termes des différents moments, de la cérémonie d'ouverture aux cérémonies de clôture, en passant par les sites de compétition. On a repoussé un peu les limites, des fois en allant faire des choses qui n'avaient jamais été faites dans l'histoire des Jeux. Et c'était très important pour nous de garder cet état d'esprit malgré toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, que ce soit les attentats en phase de candidature, que ce soit le Covid, que ce soit des conflits internationaux ou des tensions sociales en France. Et plus que jamais, moi je souhaite qu'on puisse garder cet état d'esprit jusqu'au bout de la livraison de ces Jeux, parce que nous sommes au rendez-vous de cette promesse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je souhaite vraiment que en respectant ce que les Français vont décider le week-end prochain, qu'on puisse continuer la livraison. Les Français nous soutiennent dans cette ambition. Plus de 3 millions de Français sont sur les bords de route depuis l'arrivée de la flamme à Marseille. On reçoit énormément de soutien. On a vendu près de 10 millions de billets pour ces Jeux. Et on continue bien évidemment à être au rendez-vous des attentes. Hein. On est à 24 jours. On sait maintenant que chaque jour compte. Il reste encore du travail. Et même si 99% des choses sont aujourd'hui complètement lancées, on doit encore aller chercher ce dernier pourcent, ces petits détails qui feront que l'expérience elle sera réussie et inoubliable. Et c'est important pour moi de vous rappeler l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui à 24 jours du début des Jeux.
Sur le contexte politique, Tony, il y a des répercussions concrètes, des risques d'émeutes, des sessions parlementaires qui vont avoir lieu à l'Assemblée. Comment tout ça concrètement est pris en compte à Paris 2024, notamment pour la cérémonie et pour le relais de la flamme?
Nous, vous le savez, on est vraiment à 24 jours maintenant de l'événement, donc chaque journée est extrêmement planifiée. Donc nous, côté comité d'organisation, vous l'avez compris avec Laurent Michaud ici au village, chaque journée va compter pour que les athlètes soient dans les bonnes conditions. C'est le cas sur chacun des sites de compétition qui sont en train les montages sont en train de se terminer. Donc chaque équipe maintenant sait exactement ce qu'il lui reste à faire jusqu'au 26 juillet. Nous, côté direction générale, présidence, on continue aussi à coordonner l'ensemble des équipes avec, encore une fois, l'objectif d'être au rendez-vous de nos objectifs. Donc nous, on a des interlocuteurs, y compris au niveau de l'État, qui sont bien identifiés. Hein. Je pense au préfet de police, je pense au préfet de région, je pense au délégué interministériel des Jeux, hein, qui assure cette continuité des services de l'État et de toute l'administration de l'État, avec lesquels on a des opérations importantes à mener dans la préparation des compétitions et des cérémonies. Et nos interlocuteurs, dans ce sens, n'ont pas changé. Aujourd'hui, on nous a garanti que ces interlocuteurs n'allaient pas changer avant les Jeux.
Tony, pour le relais du 14-15 juillet à Paris, est-ce qu'il y a des plans B ou est-ce que vous réfléchissez déjà à des alternatives en cas de trouble à l'ordre public, DE, enfin de...
Encore une fois, la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur qui assurent la sécurité du relais de la flamme, le ministère de l'Intérieur globalement depuis son arrivée assure la sécurité du relais de la flamme et ça s'est très bien passé. La préfecture de police sera aussi très mobilisée pour le passage de la flamme en Ile-de-France et notamment à Paris les 14 et 15 juillet avec un dispositif de sécurité adapté comme ils le font à chaque fois en fonction des renseignements qu'ils ont. Et aujourd'hui, on continue bien évidemment à livrer le plan tel qu'il est prévu. Les gens, on a accueilli les relayeurs il n'y a pas très longtemps de Paris, qui étaient ravis. Et on espère que la fête sera belle, comme elle l'est tous les jours, un petit peu partout dans notre pays.
Laurent.
Oui, bien sûr. Alors, juste pour vous dire en effet et compléter ce que vient de dire Tony, c'est que ce village olympique et paralympique, et vous allez pouvoir le constater tout à l'heure quand on fait le tour, c'est qu'il a d'abord été pensé pour être un quartier de ville avant d'être un village olympique et paralympique. Ceci pour pouvoir un maximum, prendre l'existant et y placer tous les services que les athlètes vont avoir besoin pendant les Jeux. Ça nous a permis de réduire drastiquement le nombre de overlay, donc les espaces temporaires que nous avons dû monter, et donc ainsi réduire notre empreinte carbone. Le deuxième message, c'est que c'est un village qui a été fait par des athlètes, pour des athlètes. Et en effet, grâce à la commission athlète de Paris 24, présidée par Martin Fourcade, mais également aussi la grande implication de Tony dans le travail qui a été fait ici, on a pu disposer l'ensemble de ces services de manière optimale afin que les athlètes n'aient qu'une seule chose à faire, c'est se concentrer sur leur compétition. Et ainsi, notre travail à nous, ici, les équipes opérationnelles du village olympique et paralympique, c'est de faire en sorte que ce soit complètement fluide de l'arrivée jusqu'à leur départ. Donc, le tour que nous allons faire tout à l'heure va vous permettre aussi de constater qu'on n'a pas pu le faire tout seul. Et c'est avec de nombreux partenaires que nous avons réalisé ce village. Vous le verrez notamment avec la chambre des athlètes, mais également tous les services que nous proposons sur la place du village olympique et paralympique. La Hall Maxwell, qui est ce bâtiment aussi du début du XXe siècle, qui a été complètement réhabilité et rénové, qui contient la salle de fitness ainsi qu'un centre des résidents que nous verrons tout à l'heure.
Laurent Michaud, il y a quand même quelques athlètes qui n'iront pas au village. Est-ce que c'est une déception pour vous ou ça fait partie du jeu et...
Alors, ce sont des choix qui sont faits par les délégations si, en effet, ils ont des athlètes qui logent en extérieur. Maintenant, en effet, notre objectif pour nous, c'est de proposer un espace d'hébergement, de restauration pour l'ensemble des délégations afin qu'elles puissent complètement être concentrées sur leur compétition. Après, ce sont aussi des athlètes qui auront la possibilité de venir à tout moment dans le village s'ils souhaitent passer quelques temps avec leurs collègues d'autres délégations. Ça, c'est tout à fait possible.
Combien de personnes vont travailler au village et combien de volontaires ?
Alors, nous allons accueillir 14 250 résidents et donc ça fait un peu plus de 9 000 athlètes et de 5 500, 6 000 officiels d'équipe hein, qui sont des coachs, des kinés, des médecins qui les accompagnent pendant la phase olympique. Et en phase paralympique, on réduit, en effet, il y a moins d'athlètes. On est à peu près à 4 500 athlètes et 4 500 officiels qui les accompagnent, donc 9 000 lits au total. Pour l'encadrement, nous allons être entre 3 et 4 000 staff, donc des employés de Paris 2024, des contractants avec principalement nos partenaires et puis des bénévoles.
Tous les lits seront occupés alors ?
Alors oui, tous les lits seront occupés. Pour vous donner un petit peu le planning, nous sommes maintenant à 2 jours de la fermeture du village pour qu'on puisse ensuite exercer ce qu'on appelle l'exercice de déminage par les forces de l'ordre. Et donc un exercice de déminage qui nécessite après un contrôle d'accès. Et donc toute personne à partir du 4 juillet aura besoin d'une accréditation pour pouvoir rentrer dans le village. Ça va durer jusqu'au 12 juillet. Le 12 juillet, nous allons accueillir les chefs de mission avec quelques officiels d'équipe. Ils vont prendre possession de leurs espaces. Ils vont les décorer, faire en sorte que leurs athlètes, quand ils arriveront quelques jours après, se sentent comme à la maison. Et c'est à partir du 18 juillet, la date d'ouverture du village, que les premiers athlètes vont arriver. Et là, on compte à peu près entre 1500 et 2000 arrivées d'athlètes par jour jusqu'au 26 juillet, date de la cérémonie d'ouverture, où là, nous serons complets, full house à 14 250 personnes.
Effectivement, donc on aura quand même la flamme olympique, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de changement. Hein, Vanessa, on y sera d'ailleurs la semaine prochaine. Quelles que soient les turbulences politiques qu'on va connaître dans les prochaines semaines, il n'y aura aucun problème.
Oui, tout à fait. En tous les cas, aujourd'hui, c'est tout à fait comme ça. Et il y a quand même il y a le contexte politique et les résultats des législatives hier. Mais quoi qu'il arrive, il y aura un gouvernement qui assurera les Jeux Olympiques. C'est ce qui a été voulu par tous et c'est ce qui avait été dit.
Et c'est peut-être pour ça que Gabriel Attal reste pour l'instant Premier ministre malgré sa démission. Voilà, pour se payer des affaires comptes.
C'est ce qui avait été dit, exactement. Ouais. C'est ce qui a été dit. Je vais vous en dire un petit peu plus avant qu'on écoute Laurent Michaud. Ce centre, justement, ce village olympique, excusez-moi, et paralympique, il y aura 10 super résidences, dont 3 qui seront ouvertes 24 heures sur 24. Il y aura 2800 logements. Chacun de ces logements pourront accueillir entre 4 et 8 athlètes. Il y a eu cette fameuse... les lieux en carton ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Donc, il y aura ces lieux en carton. Il y a 1600 matelas qui ont été commandés. Il y aura bien évidemment l'épicentre de ce village olympique, le grand restaurant qui sera le plus grand restaurant du monde avec 3200 places, où se côtoieront toutes les délégations du monde entier. Il y a plusieurs complexes qui ont été prévus pour que les athlètes soient vraiment à l'aise, pour qu'on répondra à toutes leurs demandes, avec notamment à côté des centres, des laveries, tout un service de conciergerie où on répond à leurs demandes. Et puis une polyclinique pour les urgences, pour l'imagerie. À côté de cette polyclinique, il y aura le centre antidopage. Et, sachez que la délégation française se trouve entre la polyclinique et le grand restaurant. Il y aura également tout un tas de services tels qu'une supérette, la poste où on pourra envoyer mais pas recevoir du courrier, où les athlètes pourront envoyer mais pas recevoir du courrier. Et puis également tout un complexe sportif où les athlètes pourront s'entraîner. En tout, 1800 équipements sont prévus. Il y aura en tout, c'est dans la cité du cinéma. Il y a plusieurs studios, 2 studios de basket, 2 studios d'haltérophilie, 2 studios d'escrime et de pentathlon moderne, 2 studios de lutte. Et puis il y aura aussi le gymnase municipal Aimé Lallemand qui est vraiment à proximité dans le périmètre du village. Et une salle de gym aussi nouvelle génération. Ça, c'était pour vous en dire un peu plus sur le village, et puis des espaces de détente également, un espace où les athlètes pourront rencontrer leur famille, et puis un village, une play zone où les athlètes pourront se détendre. On va écouter Laurent Michaud qui va nous en dire un peu plus sur le village. Alors, c'était peut-être pas ça. Peut-être qu'on va écouter Augustin Train de Vancho, justement, auquel j'ai posé la question comment a été conçu ce village, comment les athlètes ont pu apporter leur contribution, et également comment Tony Estanguet a pu apporter sa contribution.
Et donc, c'est comme si tout le monde avait décidé d'emménager le même jour, puisqu'il faut qu'on soit prêt pour le 18 juillet.
Comment vous vous êtes servi de l'expérience des athlètes pour rendre encore meilleur ce qui va se passer justement sur Paris 2024 pour qu'ils vivent encore mieux l'expérience ?
Alors, au sein de Paris 2024, on a une commission des athlètes qui est un groupe qui a suivi les équipes de Paris 2024 depuis le début et qui a pu auditer le projet, faire des suggestions. On leur a présenté des différents... Voilà, notre avancement. Ils ont travaillé aussi avec la commission des athlètes au niveau du CIO, donc commission des athlètes internationale. Et donc ça a permis d'incrémenter le projet, de tester des choses avec eux, et puis d'essayer de répondre au mieux à leurs besoins pour leur procurer la meilleure expérience.
Et justement, Tony Estanguet, qui était 4 fois, qui a vécu 4 fois cette expérience en tant qu'athlète, qu'est-ce qu'il a apporté comme touche pour encore maximiser cette expérience ?
Alors, Tony Estanguet, il a justement permis de drainer les nouvelles générations d'athlètes, les inciter à venir travailler dans cette commission. C'est lui qui animait ces commissions. Et donc voilà, on a vraiment travaillé avec eux. Il y a un exemple, c'est le Village Club. C'était un espace récréatif pour les athlètes avec différentes zones qui ont été aménagées pour répondre à leur envie, à leurs besoins, soit de se divertir, soit de se reposer, de se concentrer.
Voilà, effectivement, c'était bien. Donc,
Augustin Tranmancho, voilà, directeur adjoint du village olympique et paralympique. Et oui, c'est aussi la première fois que ce sera un village olympique et paralympique. Et puis, il y a beaucoup de premières, d'ailleurs, dans l'organisation de ces Jeux olympiques. Il faut savoir que, évidemment, la volonté de Paris 2024, c'était de réduire l'empreinte carbone. Donc, tout a été conçu dans cette optique-là.
Et Laurent Michaud était bien dans l'interview avec Tony Estanguet.
Exactement.
Voilà. Trompé de ligne, c'est pas bien.
Oui, 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 voilà.
Allez, et les autres infos concernant donc l'actu olympique, parce qu'il y a eu aussi d'autres sites qui ont été honorés. Alors, comme tu es une privilégiée, je sais que tu as eu l'occasion pour ton site Tendance au Sport, mais aussi donc pour la radio, d'assister donc à toutes ces cérémonies. Donc, tu nous en parles un peu plus, y compris donc le BMX.
Donc, le BMX qui sera sur le site de la Concorde, où il y aura les épreuves donc de BMX, de breakdance, de skateboard et de basket 3x3. Voilà, c'était une belle inauguration. Moi, j'étais surtout au village olympique et paralympique pour mon Paris FM, et puis j'étais aussi pour Tendance Sport. Mais voilà, c'était une belle expérience, une première. La première fois que je vois un village olympique de l'intérieur. Et puis après, tout ça va se mettre à vivre. Là, c'est les derniers préparatifs, la dernière ligne droite. Et c'était dans cette optique que la presse, justement, a été reçue.
Et il y a le Parc des Champions aussi.
Et il y a le Parc des Champions on va pouvoir vivre de grandes émotions que vous avez pu aussi voir, Philippe. Un petit peu, vous avez pu voir.
Alors, le Parc des Champions, il va recevoir toutes les délégations françaises et étrangères, avec la famille, les supporters. Je crois qu'on pourra même inviter quatre personnes. Et puis, on remettra des médailles à ceux qui ont été récompensés de façon olympique, mais sur des Olympiades précédentes, suite à des problèmes de dopage. Aujourd'hui, on a reclassé. Il y en a même certains qui vont recevoir leur médaille après les Jeux de 2000. Donc, c'est incroyable quand même. Carte aussi qui seront attendus pour être à la fois honorés. Mais enfin, bon, ça sera festif en plus donc de la délégation France qui viendra aussi à la Villette, au Club France.
Et c'est une cérémonie justement de remise de médailles qui sera aussi autant valable pour les JO d'été que les JO d'hiver.
Et pour les Paralympiques aussi.
Et pour les Paralympiques aussi.
Au même titre d'ailleurs que le Parc Olympique qui servira aussi pour les Paralympiques. Alors, on parlait de la flamme.
La flamme.
Où est-ce qu'elle en est? Elle se retrouve.
Aujourd'hui, elle est à Blois. Paris, elle est à Blois en ce moment. Elle arrive bientôt sur Paris pour le 14 et 15 juillet.
Le week-end prochain, oui.
Exactement. Et puis, je vais vous faire un petit peu le récit de la semaine dernière. Aujourd'hui, elle est à Blois. Mais la semaine dernière, elle était dans le Nord, à Lille, avec sa fameuse grande braderie annuelle qu'on connaît tous. Une ville de sport, de nature, de patrimoine, de culture. Elle a commencé son parcours dans le Nord. Il y avait en tout 181 porteurs de la flamme. Il y avait un relais collectif de handball, et avec les différentes variantes du handball, le handball fauteuil, etc. Elle a illuminé les routes du Paris-Roubaix. Elle a voyagé de Cambrai à Tourcoing et son vélodrome André Pétrieux. Elle est passée à Tourcoing et ensuite elle a été au vélodrome André Pétrieux. Elle a fait escale à Douai, au Cercle d'Escrime, pour finir sa course finalement à Lille, sur l'esplanade du Champ de Mars, où Danny Boone, le plus célèbre des ch'tis, a allumé le chaudron. Danny Boone qui est un passionné de golf et qui lancera un grand tournoi de golf. Il y avait également à Lille Raphaël Varane, F. Gilles, Miss France. Et puis, il y avait aussi une œuvre d'art qui a été réalisée par Marion Lescaut, qui était faite à partir de la récupération d'articles de sport. Ensuite, elle est passée dans le Pas-de-Calais, avec le Pas-de-Calais, très caractérisé par son ex-bassin minier. Elle est passée à Calais, à Saint-Omer, à Boulogne-sur-Mer, avec son beffroi. Le beffroi, c'est un ancien donjon du XIIe siècle. Elle est passée également à Berck-sur-Mer, à Arras, et puis par la base de loisirs de Ménil-les-Ruits. Il y a eu un relais collectif de lutte. Oula, j'ai vraiment... Elle est passée à Lens, avec le fameux musée du Louvre, et évidemment... Le stade Bollaert. Le musée aussi du Louvre, qui a été inauguré en 2012 à Lens. C'était aussi le symbole entre les œuvres antiques et puis les valeurs des Jeux Olympiques. Et puis évidemment, la Grèce antique, l'origine des Jeux Olympiques. C'est Eric Sicora, l'ancien du
grand
Racing.
Lançois. Il y avait Varane à Lille qui était aussi un grand Lançois.
Voilà,
et puis
exactement,
maintenant Sicora. Voilà.
L'ancien du Racing FC Lens qui a allumé le chaudron, place Jean Jaurès. Elle est partie dans la Somme, hein, la Somme qui est quand même une terre historique avec les deux grandes guerres mondiales et puis une baie aussi qui est classée grand site de France. Elle a fait plusieurs villes hein, dans la Somme, Villiers-le-Bretonneux. Et puis elle a fini à Amiens. Il y avait 150 relayeurs en tout qui ont porté la flamme, dont Amnike Fauqueux, qui est une amiénoise d'adoption. C'est une Néerlandaise qui a été troisième des Jeux de Séoul en 1988, justement en hockey sur gazon. Il y avait également Camille Bousselam, deux fois champion du monde de breakdance. Hein, le breakdance, qui est j'en parle aussi parce que c'est quand même la nouvelle discipline des Jeux Olympiques, l'une des nouvelles disciplines des Jeux Olympiques. Mathieu Bataille, un ex-judoka, qui est maintenant arbitre international en judo. Et puis Régis Guttner, un ancien footballeur de l'Amiens FC. Et c'est Jérémy Stravius, le champion olympique de natation en 4 fois 100 mètres nage libre à Londres en 2012, qui a allumé le chaudron sur l'esplanade de l'hôtel de ville. Et c'était pas tout, son parcours, elle a continué un peu dans le nord et puis elle s'est dirigée vers la Normandie, de Rouen au Havre, hein, en Seine-Maritime. Il y a eu 125 porteurs, la flamme s'est baladée le long de la magnifique falaise d'Étretat, des magnifiques falaises d'Étretat. Évidemment, l'architecture typique de la Normandie, de ce département. Une terre de sport hein, où il y a eu les étapes du Tour de France, la Transat Jacques Vabre, la Coupe du monde de foot féminin en 2019. Elle est passée par Rouen et sa fameuse cathédrale, le quartier du Gros Horloge notamment, Dieppe, Yvetot avec son église rose, Étretat. Et puis elle a fini au Havre, une terre aussi de badminton, le Havre. Il y avait un relais de badminton et puis il y avait Christelle Moll qui était la première française à participer aux Jeux en 92 quand la discipline justement est devenue olympique. Delphine Desmarest qui lutte pour que le sport adapté soit ait plus de visibilité. David Douillet était les stars de cette étape. Sarah Bidbol, l'ancienne patineuse, troisième des Mondiaux 2000 et qui a disputé avec son partenaire Stéphane Bernadis les JO de 98. Il y avait également la basketteuse Sandrine Gruda et puis le nageur du Bosc, médaillé aux Jeux d'Athènes en 2004 et à Pékin en 2008. Alexis Akincan, excusez-moi, cette fois champion du monde. Akincan, excusez-moi.
Le triathlète paralympique.
Pardon, excusez-moi. Cette fois champion du monde et de paratriathlon et champion olympique à Tokyo. Et puis Gaëlle Rivière, vice-champion paralympique de Cécifoot en 2012. Ainsi que dans les personnalités Fovoto. On va bientôt terminer notre parcours hein, de cette flamme. Elle était dans l'heure à samedi. Elle est passée par Pont Audemer jusqu'à Vernon. Il y avait le relais collectif d'athlétisme au stade Jess Owen. Jess Owen, que vous connaissez tous, bien sûr, hein, cette célèbre athlète noire qui a gagné les Jeux en 1936 à Berlin en présence d'Adolf Hitler. Et puis, donc, elle est passée aussi par Évreux, cette flamme. Et puis, le capitaine du relais, relais de badminton, c'était Just Quan Matex. Et tout ça pour vous dire que c'est Astrid Billard, la médaillée d'argent à Tokyo, au dernier jeu, qui a allumé le chaudron. Et puis, dimanche, hein, donc hier, elle était à Chartres. Elle est passée par Dreux, Châteaudun, Bonneval.
Châteaudun,
excusez-moi. Je suis un peu fatiguée pour cette avant-dernière émission. Et puis, elle a fini à Chartres avec sa fameuse cathédrale, hein, le chef-d'œuvre d'art gothique classé au patrimoine de l'UNESCO. Il y a eu un relais de natation dans le plus grand centre aquatique de France, l'Odyssée. 5000 mètres carrés, 11 bassins, où sont déroulés les derniers championnats de France. Et c'est Marie Patouillet, la championne du monde de paracycliste en 2022, qui a allumé le chaudron. Voilà pour cette flamme olympique.
Oui. Et puis,
voilà.
Qui, je l'ai dit, qui arrive donc dans la capitale.
Et
on
qui
y
arrive
sera
dans
donc,
dans la capitale.
Ouais. Donc, dimanche et lundi.
Un petit mot,
rapidement.
Très, très rapidement.
Ouais.
Allez voir l'expo jusqu'au 13 juillet. Ça s'appelle Habiller la scène. C'est les travaux de 5 étudiants, artistes, qui exposent leurs œuvres. Et puis, il y aura sur la barge du Crous toute une animation avec des diffusions des Jeux Olympiques cet été. Voilà, c'était un partenariat entre le Crous et des étudiants en art.
Très bien. Allez, on finit avec la Copa América. On en est où, Alexandre ?
Alors la Copa América, donc il se trouve qu'on est aux demi-finales. Mmh. Et donc bah, la semaine dernière, donc il y avait les quarts de finale. L'Argentine a battu l'Équateur 2-1. Le Venezuela a perdu contre le Canada 2-1. L'Uruguay, donc comme on l'a dit tout à l'heure, a gagné au tir au but face au Brésil. Je tiens juste à dire que le Brésil a un gros vide générationnel et que Hendrick, le futur joueur du Real Madrid, n'avait réussi qu'une seule passe et c'était celle de l'engagement. Donc voilà, je trouve que c'est une stat qui est quand même assez importante. La Colombie a gagné 5-0 face au Panama avec un énorme James Rodriguez, un but et deux passes décisives, donc toujours au top même s'il joue encore à Sao Paulo. Et donc du coup les demi-finales, donc sera dans la nuit de mardi à mercredi. La première c'est Argentine-Canada. Et
étonnant quand même le Canada.
Hein. Étonnant. Ouais. Pour la deuxième fois ils se rencontrent, ils s'étaient rencontrés en poule, là ils se rencontrent en demi-finale. Et l'Uruguay contre la Colombie de la nuit de mercredi à jeudi.
D'accord, Argentine-Uruguay, ça peut être la finale messieurs.
Ça peut être logique. La finale.
Ça va être chaud, hein, c'est toujours chaud. Hein.
Des grandes nations de l'Amérique du Sud, hein, ça peut être chaud. Mais attention au Canada qui est peut-être pas là innocemment.
D'accord. Julien, pour finir, la Copa América, tu suis ça un peu, bon, non ?
Un petit peu, mais j'aurais dit plutôt attention, la Colombie peut aussi faire sa petite affaire contre l'Uruguay. C'est vrai que l'Uruguay, avec Bielsa, c'est... Il y a un côté appréciable, il y a un truc qu'on a envie de suivre. Il apporte une énergie, quelque chose d'un peu hors du commun, ce personnage. Donc, c'est toujours plaisant de les voir avancer loin. Et puis, la déception du Brésil.
Comme d'habitude, j'allais dire
très souvent. Je ne sais pas si c'est vraiment un trou générationnel, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ne sont plus la même qualité qu'il y a quelques années. En tout cas, l'effectif, même s'il y a des individualités, ne montre pas grand-chose.
Merci Julien, merci Loan. Rendez-vous la semaine prochaine pour la DRDDR, hein, pour cette saison. Hein. On sera au lendemain de l'Euro, j'espère qu'on aura le titre. Hein. Voilà, très bien.
Merci Philippe.
Merci donc Alexandre.
Merci
à
Philippe.
La semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Il y a encore une belle actu sportive. Salut Vanessa.
Merci.
Rendez-vous la semaine prochaine. Tu as beaucoup travaillé, donc vous pouvoir aller souffler un peu. Voilà. Allez, merci à Jason pour la mise en route de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, 19h-20h30, pour faire un grand bilan encore de cet Euro de foot et puis parler aussi naturellement pour les Jeux donc, qui arrivent et notamment la Flamme Olympique qui sera là. T'imagines, le 14 juillet, on gagne l'Euro de foot avec la Flamme Olympique. Ce sera de belles fêtes. Allez, belle soirée à toutes et à tous. Tiens, on finit avec Will Survive. Ça rappelle tellement de beaux souvenirs.
Bonne
avec Gloria Gaynor. Belle soirée.
Belle soirée.
Et merci à Jason.